blogueuses, game blogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction, podcast 352, podcast d'actualité aujourd'hui. Et pour m'accompagner, Traz.
Salut, salut.
Julo.
Ouda.
Et Romain.
Hello.
Messieurs, cette semaine, nous allons évidemment survoler l'actualité, comme je viens de le dire, et c'est le retour des wins, des fails et du chiffre, mais aussi
du shit.
Jingle sommaire. Évidemment, nous allons avoir des petits thèmes. Il y en a un qui est d'abord lié au fait que Uncharted et Nathan Drake Collection, que Traz a gentiment testé, dans ses derniers retranchements, eh bien, va sortir le 7 octobre. Et on se demande tous, encore une fois, est-ce qu'on n'en a pas marre des remasters là au bout d'un moment? On va évidemment parler de tous les autres, hein, que ce soit Gears of War, Last of Us, God of War qui est sorti cet été et Beyond Heavy Rain qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous allons parler jouets vidéo. Vous savez,
exact.
Ces jeux.
C'est la récré, quoi.
Qui nous font acheter des tas de figurines.
Super chères.
Exactement, mais super chargeur, même, j'ai envie de te dire, pour Skylanders.
Qui est sorti. C'était pas préparé, hein.
Non, qui est sorti ce 25 septembre sur à peu près toutes les plateformes, que Julo a gentiment testé aussi. Très gentiment.
Ah, j'ai été gentil.
Mais il y a aussi Lego Dimensions, que Romain a gentiment testé aussi.
Ok, je suis en train de gentiment tester.
Oh, tout de suite, ouais, c'est bon, tu te calmer. Pour les premiums, effectivement, qui peuvent voir ce podcast en vidéo. Tu seras en train à ce moment-là, mais pour ceux qui nous écoutent,
ouais, oui, je pense que là il sera testé,
le test sera déjà publié,
mais oui,
et ce sera super gentil, évidemment. Mais nous parlerons
ce
aussi
sera super génial, même.
Des autres jeux de la semaine, à savoir Saint Seiya,
NBA 2K16,
jeu de l'année. Et Soma, avec des tas de vannes, vous voyez, Traz a commencé, le jeu qui fait maigrir en dormant. Bref,
ça fonctionne.
Maintenant, on va commencer avec le win de la semaine, et je vais me tourner vers toi, Traz.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il a winné cette semaine?
Bah, c'est très simple, hein. C'est un jeu qui est sorti le 11 septembre dernier, qui s'appelle Super Mario Maker, ou Maker, ça dépend, sur Wii U. Et donc, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires dans le monde entier.
C'est vrai, depuis le 11 septembre.
Sous vos applaudissements.
C'est fou, hein, quand même.
D'accord, en moins d'un mois, 1 million.
T'entends les gens qui applaudissent, là?
Tellement
c'est la win de ouf.
Ah, bah, c'est la win de comme du jamais vu, quoi.
Exactement. Et en plus, avec ces 1 million de vente, il y a eu 2,2 millions de
niveaux
qui ont été créés
par
par les gentils joueurs qui font plein de niveaux super bien.
Et ils les ont créés gentiment.
Et ils les ont créés très
super
gentiment.
Donc 2,2 millions de niveaux, effectivement, certainement ceux qui ont été publiés.
Ouais.
J'imagine. Parce que,
oui, parce que difficile de savoir le compte si on les a pas, si on les a gardés sur sa console.
Exactement. Et on peut en faire un sacré paquet, hein, avec tous les genres, toutes les versions de différentes époques qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Hein, donc,
c'est un jeu qui était très apprécié, hein, sur Gameblog, qui a eu son petit 4,5 par
Yann. Ouais. Mais ça les vaut vraiment, parce que c'est un jeu que tu peux utiliser à l'infini, quoi. Après, il faut aimer effectivement créer des niveaux, se prendre torturer un petit peu les méninges.
Ce que ton fils de 5 ans fait très bien.
Non, 6 ans, il n'est pas 5 ans.
6 ans, pardon.
Oui, il aime bien ça, il adore, donc il est content. Il fait des niveaux un peu bizarres. On peut mettre des sons complètement débiles.
Ouais. Donc toi,
tu peux t'enregistrer en plus.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a des gens qui font des chansons. Qu'on fait des chansons, parce que ça reprend un peu le système de Mario Paint dans Mario Maker. Et il y a des chansons, mais super bien faites dans.
Est-ce que vous vous rendez compte?
C'est génial, vraiment.
Traz, tu veux pas nous montrer tes niveaux? Parce que au niveau sonore, ça doit être un truc de malade.
Dès que tu tapes dans un blog, ça fait Tiep, Tiep, Tiep.
Non, c'est pas moi qui les ai fait, c'est mon gamin, j'avoue. Donc moi, je l'ai regardé, il a compris, il fait.
Mais faut que tu fasses un niveau avec tes bruitages.
Ça fait murmure mortel ou pas?
Ouais, non, il enregistre des sons, moi aussi, donc c'était rigolo. C'était des sons bien, bien débiles, évidemment.
Ok. Et tu te sens prêt pour le niveau le plus dur, là aussi?
Celui qu'on a passé sur Gameblog, là, oui, que japonais qui en pleure de bonheur à la fin.
C'est un
parce
truc
qu'il
de
a
ouf,
réussi
ce niveau.
À finir un niveau impossible.
Ouais.
Non, ça, je suis incapable de finir ça, c'est clair et net.
C'est vrai.
J'aurais cassé la gamepad avant.
Tu serais assez fourbe pour y penser?
Ah oui, fourbe, oui. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, je vais faire un niveau bien fourbe.
C'est vrai.
Et puis.
Ah, mais fais les bruitages. C'est surtout ça.
Fais-nous les bruitages.
Franchement, faut que tu fasses un niveau.
Et demande à ta reine Tulette de faire quelques voix.
Ah, bah évidemment, je vais demander de faire des commentaires pourris, évidemment. Logique.
Le retour de Darren Tulette dans le podcast.
Le tulettisme.
Ça, c'était pour la win de la semaine, évidemment.
Exact.
Mais il y a aussi tes fails, n'est-ce pas, Romain?
Oh, ça craint.
Qu'est-ce qui a failé cette semaine?
Eh bien, c'est Konami le cadre de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, parce que les joueurs n'auront pas de DLC scénarisé, tout simplement.
Ah bon,
c'était prévu.
Mmh.
Mais d'après nos sources,
il
n'y aura pas de DLC scénarisé dans MGS5. Simplement, celui qui était prévu a été annulé et il n'y en a pas d'autres mis en chantier à part ça. Et d'après ce qu'on nous a dit, le fameux niveau 51 qu'on peut voir dans le Blu-ray bonus, c'est ce qui aurait pu être le DLC de MGS 5, mais il n'en est rien.
Donc en fait, MGS est à l'abandon, quoi, en termes de contenu.
Non, parce qu'il va y avoir des choses non scénarisées, des costumes bonus, tout ça. Et en plus, il y a Metal Gear Online qui va arriver.
Donc, online.
Donc à ce niveau-là, il y aura des choses. Mais c'est vrai que pour ceux qui auraient aimé prolonger l'histoire, l'expérience et continuer de jouer dans l'univers de MGS 5, ça semble mort. Hein.
Mais c'est quoi alors le niveau 51 qui est dans le jeu, c'est un
niveau scénarisé.
Je ne sais pas parce que je n'en suis pas encore là dans l'histoire. Oui, donc, je ne pourrais pas.
Pour résumer, on n'est jamais content. Hein. Quand il y a trop de DLC, c'est des fails, et quand il n'y en a pas, c'est des fails aussi.
C'est une question de ressenti. Si c'est une licence qui te plaît, t'as envie que ça continue, mais si tu t'en fous, tu gueules.
Voilà. C'est sûr qu'on aurait bien aimé. Hein,
vous êtes jamais content.
800 heures.
Vous êtes jamais content.
Tout n'est pas super génial.
On va continuer à parler du Red V d'ailleurs.
C'est vrai,
n'est-ce pas mon petit
jeu? Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Avec le chiffre de la semaine, bien sûr. Je m'embrouille complètement dans ton magnifique.
C'est un métier, le soundboard.
C'est clair. Voilà, donc le chiffre de la semaine, mon ami. En fait, il y a plusieurs chiffres de la semaine et ça concerne Rise of the Tomb Raider.
On dit Tomb Raider.
Bah, c'est comme ça. C'est comme on dit walking, pas walking.
On dit pas walking.
On dit Last Guardian et pas Last Guardian. Pedro Miguel. Non, pas Oleta.
Pedro Miguel. Alors, Rise of the Tomb Raider qui sort le 13 novembre prochain.
Tout à fait. Alors, non pas un, mais des chiffres et ça concerne la durée de vie donc du jeu. Puisqu'un responsable de Crystal Dynamics a lâché l'info, combien de temps va durer cette nouvelle aventure? Eh bien, ça dépend de votre style de jeu, évidemment. On parle donc entre 15 et 20 heures si on va tout droit, genre si on s'occupe de rien d'autre que de rusher le jeu, 15 à 20 heures, et le double, donc 30 à 40 heures, si on veut, à côté de ça, faire toutes les tombes,
tout compléter.
Quand on est un complétiste, comme on dit, ça fera une belle grosse durée de vie.
Un complotiste.
Et pour rester dans les chiffres et rester dans Tomb Raider, cette suite donc proposera des niveaux hub qui seront trois fois plus grands que dans l'épisode précédent.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est.
Donc Rise of the Tomb Raider.
C'est pour le point chiffre.
C'était super génial.
Pour y avoir joué, vous pouvez aller voir la vidéo sur Gameblog de mes impressions.
Exact. Sans filet.
Ça reste. Enfin, ça s'annonce vraiment très très bien. Et surtout, voilà, si c'est en plus la durée de vie tient, bah forcément. Bon, le premier
c'est joli.
Le reboot était déjà
un peu moins long que ce qu'on dit là. Après, c'est Crystal Dynamics qui le dit, on sait pas exactement.
Je pense qu'il y a du pipeau du côté des.
Bah, je sais qu'il y en a jamais, mais pourquoi pas c'est toi.
Il
y a jamais de pipeau du côté des éditeurs.
La durée de vie, en fait, tu peux la faire comme tu veux. Hein. Tu peux très bien mettre 100 heures à finir le jeu si tu veux.
Moi, perso, la façon dont je joue, en général, les jeux sont deux fois plus longs chez moi que ce que les gens en disent.
Parce que tu
les sors des boîtes, quoi, en fait, c'est ça.
Si tu décides, de faire le jeu en marchant, par exemple, tu empêches la rate de courir.
Tu sais que moi, quand je jouais à Shenmue à l'époque, je jouais en marchant tout le temps.
Bah bien sûr, c'est ce qu'il faut.
Et je regardais partout autour de moi.
Tu faisais quoi? Tu te déguisais en
marchant? Je m'extasiais.
Moi aussi, je suis un peu contemplatif.
Et je chantais
Destiné.
Ah d'accord.
Comme Uncharted, je mets 3 heures à regarder un niveau parce que c'est trop bien.
Mais c'est dingue. Mais moi, tu verrais comment je joue à Metal Gear Solid 5, mec. Tu flipperais, hein, chaque niveau j'ai fait en 3 heures.
Ah, moi c'est très long aussi parce que comme je veux pas me faire repérer, il y a des moments où ça m'énerve et je recommence.
Je recommence.
Ça étend la durée de vie de manière exponentielle.
Bon, en tout cas Tomb Raider, vivement qu'on l'ait à la rédac et qu'on puisse le tester pour vous.
Ouais, absolument.
Pour toi, public.
Ça sera moi qui le ferai d'ailleurs.
Sur Xbox One.
Bref,
si t'es sage, si t'es gentil,
passons à.
C'est le mot du jour, gentil.
À un des jeux de la semaine qui va nous faire embrayer sur un thème.
Tiens, avec un thème musical d'ailleurs.
Oui, absolument. Cette petite musique, elle vous dit quelque chose normalement.
Petite musique de nuit, tu connais?
Après les tam-tams, bien sûr.
Oui, ça y est, j'ai compris. Oh, oui.
T'as reconnu?
Ouais, je crois.
Vous avez
Skylanders.
Ouais, non, pas du tout. On va parler de Uncharted, The Nathan Drake Collection.
Nathan.
Qui sort le 7 octobre.
Exact.
Et que Traz a gentiment testé.
Tout à fait.
Pour nous. Et là, c'est la question qu'on se pose. C'est encore une remasterisation. Ok, d'accord, il y a 3 jeux à l'intérieur. Ça fait une petite compile sympa en plus. Mais est-ce que, messieurs, c'est pas le moment
de dire stop.
Bah aux remasterisations à gogo?
Honnêtement, moi, pour celui-là,
ouais,
comme pour The Last of Us, qui valait vraiment le coup, parce que on voit vraiment la différence PS3 à PS4. Là, ça apporte vraiment quelque chose, visuellement parlant.
Ouais.
Mais là, encore plus, parce que non seulement c'est une compile, donc il y a les 3 jeux, les 3 premiers jeux. Dans le 4ème.
Il manque tout de même l'épisode PS Vita qu'ils auraient pu.
Oui, mais c'est pas très grave ça. Je dirais que c'est pas très très grave. PS Vita, c'est sur PS Vita et voilà. Bon, bref. Oui, ça aurait été mieux, c'est sûr, hein, d'avoir les 4, mais...
Il était vraiment cool l'épisode.
Mais je crois qu'il est pas vraiment canon comme on dit, donc ouais. C'est
ouais,
pour
ouais,
ça
ouais,
que
ouais, c'est un petit peu pourquoi il serait pas plus canon qu'un autre.
Mais en tout cas, parce que c'est par Naughty Dog qui l'a fait, honnêtement.
Mais en tout cas, pour moi,
c'est comme Rocksteady compte pas Batman Arkham Origins alors que.
En tout cas, pour moi, cette remasterisation est tout à fait légitime.
Ouais.
Parce que les jeux ont été refaits mais de A à Z, si je puis dire. D'un point de vue graphique, des ombres, des textures, des lumières. Mm-hmm. C'est pas une bête.
Bah franchement, rien que sur le premier épisode. Une
remasterisation basique toute pourrie.
Ouais, mais est-ce que ça aurait pas
des
été.
Bonus,
ça aurait pas été plus simple d'envisager. Je sais pas, une rétrocompatibilité.
Non, mais ça aurait pas été aussi bien que ça, c'est sûr.
Ouais, mais bon,
ça aurait été juste d'un point de vue technique, ça aurait été un petit peu mieux.
En fait, je me demande,
ils l'ont vraiment peaufiné quoi. Donc,
je me demande si la question technique rentre vraiment en ligne de compte chez les gens qui se plaignent du nombre de remasterisations en fait.
C'est, je pense mais pas, que pas
ça,
tant que ça en
non,
fait.
Non, mais je pense pas que ce soit ça le fond du problème. C'est que c'est un peu. Je pense que c'est surtout le fait qu'à la place de sortir de nouveaux jeux, on nous fait racheter des jeux, auxquels on a déjà joué.
Oui, mais encore une fois,
en termes de ressenti, je pense que c'est un peu comme ce qu'on disait pour le DLC tout à l'heure. C'est si c'est une série qui te plaît, bah peut-être que tu vas le prendre mieux que si c'est une série qui ne t'intéresse pas et que tu vois, voilà, on vous ressort encore des jeux déjà sortis l'année dernière, la génération précédente.
Moi qui suis un grand fan de la série Uncharted, je peux te dire que les trois jeux, donc je vais les finir, c'est sûr et certain.
Les revenir.
Les revenir. Et je redécouvre des trucs extraordinaires, quoi. Et pas seulement d'un point de vue de la beauté, mais du scénar et tout, je me remémore des trucs, etc. Parce
mais
que
tu te dis
les jeux sont quand même de 2007, 2009, 2011,
tu
donc
te
ça
dis
fait quand
pas,
même un petit
moment,
bout de temps.
J'aurais préféré avoir des jeux originaux, j'aurais préféré que.
Mais
je
non,
sais pas,
j'attends,
le 4, Blue Point,
j'attends le 4, je m'en fous.
Bah ouais, mais tu préfères pas justement que le 4 sorte plus tôt et que.
Bah non, moi je préfère qu'encore une fois.
Après, il y a une autre.
Je préfère que le jeu soit mieux, même avec 6 mois de retard que.
Après, il y a une autre question qui se pose, je pense.
Toujours des questions.
Question à laquelle je n'ai pas de réponse.
Ah bah voilà, merde,
mais si.
Non, mais c'est.
Attends, on aura peut-être nous la réponse.
Parce que c'est un débat, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que, imaginons que la PS4 soit rétrocompatible. La PS4 est rétrocompatible, donc vous pouvez jouer quand vous voulez à Uncharted 1 à 3 version
PS3. Il sera
PS3.
Pas refait, il sera tout pourri.
Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, même s'il est refait, même dans ce cas-là, est-ce que tu aurais envie d'acheter Uncharted Nathan Drake Collection?
Bien sûr. Ah bah c'est une certitude. Parce que je verrai les différences en vidéo, je verrai tout ce qu'ils ont apporté en supplément, notamment au niveau des bonus, etc.
Le débat, on est d'accord, c'est les remasterisations quoi. D'une manière générale.
Oui, bien sûr, parce qu'on peut parler
mettons,
de Gears, on peut parler
mettons,
de...
Mettons,
ça fait que 20 euros par jeu.
Oui, mais mettons un Uncharted mis à part. Je le reprends toujours en exemple, parce que visuellement, je sais pas, il m'a pas semblé bien au-dessus de l'autre. Je prends l'exemple de Sleeping Dogs, par exemple.
Ouais.
La PS4 est rétrocompatible. Tu as Sleeping Dogs sur PS3. Est-ce que tu le rachètes sur PS4?
Bah moi je l'ai pas fait sur PS3 donc forcément.
Oui
pas,
non. Mais...
Si non, tu mais... l'as fait.
Et j'ai pris mon pied sur PS4.
Non mais on peut être conscient d'une chose, c'est que ça c'est dépend bien vraiment pour les personnes de qui l'avaient pas fait auparavant.
Le mec a jamais joué à la série Uncharted. Mais sur PS4 c'est obligatoire comme jeu. Obligatoire.
Est-ce que les acquéreurs de PS4 sont essentiellement composés de personnes qui n'ont pas eu de PS3?
Oui,
il y en a beaucoup
qui n'avaient pas de PS3.
Voilà, il y en a certainement un peu parce qu'ils ont bouffé pas mal sur.
Mais après, tu vois, c'est dit.
Sur le monde Xbox.
Les éditeurs font tellement de choses différentes avec les remasterisations que c'est difficile de généraliser. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Halo Master Chief Collection.
Oh non,
la Xbox 360, la Xbox One est rétro-compatible maintenant, ou alors elle va le devenir très très bientôt.
Très bientôt.
Un jour.
Et même si. Moi, les Halo, je les ai tous. Sur 360 et je les ai gardés.
Oui. Donc comme t'es fan d'Halo, t'aurais forcément pris
la remaster. Non, là c'est pas ça.
Ouais.
Là c'est pas ça.
Ouais, menteur.
Là la Master Chief Collection, j'aurais envie de l'acheter pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils ont totalement refait l'interface.
Et ils ont
ce qui fait que
multi
voilà,
aussi.
Ils ont unifié le multi. Ce qui fait
les
que
multi,
tu mets le jeu, tu rentres dans le menu.
Ils ont unifié le gameplay.
Écoute-moi, tu rentres dans le menu du multijoueur. Et là, tu vas pouvoir, sans avoir à quitter un jeu pour passer de Halo 1 à Halo 2, tu vas pouvoir enchaîner une map multi d'Halo 2 avec une map multi d'Halo 3. Et là, pour le coup, ça donne une vraie bonne raison d'acheter comment dire, la Master Chief Collection. Alors que Gears of War, par exemple, même si je trouve que le travail de remake, pour le coup, a été très bien fait, sachant que Gears of War 1 va être rétro-compatible,
et qu'il est offert en plus quand on achète.
Oui, non, mais là pour le coup, non. Enfin, c'est pas ça. Si j'ai toujours Gears of War 1, et bah je sais pas si j'aurais vraiment eu envie d'acheter la remasterisation/remake. C'est vraiment au cas par cas. On n'a pas de réponse. Je pense pas qu'il puisse y avoir de réponse catégorique, genre. Oui, les remasterisations,
oui, je pense
c'est
que
bien.
Ça dépend,
non, c'est bien.
Ça dépend vraiment de ce que tu as joué avant ou pas. Quoi.
Ça dépend voilà. de ce à quoi tu as joué et ouais, aussi de ce qui est proposé. Parce que pour le coup, pour revenir sur Halo Master
Chief Collection...
Tu voudrais
dire que comme les chasseurs, il y a des bonnes remasterisations et des remasterisations.
Non, indépendamment du point de vue technique. C'est vraiment, ça dépend
bah,
de ce
que tu as
fait.
C'est pas que technique, c'est ce que tu proposes en plus, etc.
Non, mais le mec qui a jamais joué à Uncharted ou à Gears of War ou
oui,
à Halo...
Oui, mais ça, c'est évident. C'est, bah, c'est, voilà. c'est
Est-ce qu'on pourra dire la même chose de Beyond et Heavy Rain?
Beyond, je sais pas.
Non, Beyond.
Bah, faut voir, je faut sais voir. Pas, faut voir. Ça dépend comment c'est fait encore.
Parce
fois,
que pour revenir à Halo Master Chief Collection, je trouve que l'idée de réunir toutes les maps multi de tous les Halo et de les rendre, enfin de les associer dans un seul hub, par exemple, ouais. je trouve ça complètement c'est génial.
Fonctionnalité géniale, ouais. Hein. Supplémentaire.
C'était super génial. Et tous les créateurs de remasterisation vont pas forcément aussi loin pour unifier. Par exemple, je pense pas que dans Uncharted, t'aies genre ce système de playlist qui permet de genre tu termines Uncharted 1 et ça enchaîne directement avec la cinématique d'ouverture de Uncharted 2. Dans Halo Master Chief Collection, ça tu
non,
peux
mais
faire.
Par contre, dans Uncharted Collection, tu peux passer d'un jeu à l'autre sans problème. dans le jeu, t'es pas obligé de revenir au menu avant.
Ah, d'accord.
Donc, ouais, c'est ultra pratique, ça va très très vite et voilà, t'es pas.
Et pour donner mon avis sur la
oui,
question,
parce que c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup entendu.
Et les remasterisations pour ou contre, machin, etc. C'est, j'ai envie de dire, le joueur c'est un homme libre.
Uh-huh. Ah ouais.
Et bah, il a le droit pas, de voilà. La seule chose qui peut parler, parce qu'il y a plein de cas, il y a que des cas différents. En fait.
Oui,
il y a
des
gens
qui
ont joué à Uncharted et qui sont fans, qui veulent y rejouer. Il y en a qui ont jamais joué et pour eux c'est une aubaine.
Surtout, attends, trois jeux en un, ce prix-là.
Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tous les cas. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de l'acheter. En fait, les chiffres vont parler. Et le plus important dans ce débat, je trouve, c'est de savoir si ces remasterisations prennent le pas sur les créations originales.
Voilà, c'est ça le
et honnêtement, c'est pas le cas. Même si elles se multiplient, qu'il y en a de plus en plus.
Et que ça fait partie de la stratégie de Sony d'ailleurs.
Et que ça fait partie d'une forme de stratégie, surtout
de
qu'ils ont un catalogue de d'exclusivité qui pour cette fin d'année est pas terrible. Donc Uncharted vient là se poser en roi presque hein, de la fin d'année. Et puis bientôt donc peut-être.
Alors qu'ils auraient pu pousser
Beyond
et marketé.
Et Until Dawn, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès d'ailleurs.
Ils l'ont dit.
Mais dans tous les cas, voilà, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Et du moment que à côté de ça, on a d'autres sorties, d'autres grands jeux et que le calendrier du joueur est marqué par plein de sorties voilà, aussi cool que toutes celles qu'on a cette année sur toutes les consoles, bah pourquoi s'en plaindre, je veux dire on doit pouvoir contenter tout le monde. Moi par exemple, je vais être très content de rejouer Uncharted.
C'est vrai.
Bah ouais. Moi aussi.
Et clairement. Surtout qu'il y a on sait qu'il y a le 4 en ligne de mire et
il y a la bêta du 4 avec le jeu.
Voilà, c'est quand même
et franchement il y a des vraies plus-values.
C'est quand même trois jeux extraordinaires. Franchement extraordinaire.
Oui, tu les prends un par un déjà, ils sont magnifiques, mais les trois d'un coup.
Et c'était la même chose pour Halo. Du moment, parce qu'il y a cet argument-là aussi. Est-ce que, comme je disais, il y a remasterisation et remasterisation. Il y en a qui se foutent plus ou moins de la gueule du monde,
bien sûr,
et d'autres qui font les choses bien. En l'occurrence, je pense que Naughty Dog a été derrière et que les mecs de Bluepoint avaient quand même une sacrée responsabilité sur les épaules quand tu remaster des jeux.
T'inquiète pas,
aussi
qu'à mon avis, ils les ont suivis à la culotte. Hein, je pense.
Et c'était pareil pour Halo. Il fallait pas se planter, etc. Donc il y a des remasterisations qui sont beaucoup plus plus valable que d'autres quoi.
En fait je pense que le problème des joueurs avec les remasterisations se situe à deux niveaux. D'un côté et même si finalement sur Xbox One ça s'applique plus trop parce que on a la rétrocompatibilité maintenant, mais la première base c'est non, je parle des joueurs d'une manière générale.
Moi, je sais que tu t'inclus dedans.
Oui, bon, je m'inclus dedans si tu veux. Je veux dire d'un côté on retire aux joueurs la rétrocompatibilité des consoles. Et on leur dit, voilà, c'est comme ça qu'ils le prennent, hein. J'interprète.
Oh là là.
On vous retire la rétrocompatibilité. Si vous voulez jouer à vos anciens jeux, faut les racheter. Donc déjà, ça passe mal à ce niveau-là. Maintenant, je te dis, sur Xbox One, ça se ressent un peu moins parce que les gens peuvent rejouer à leurs anciens jeux, en moins en partie. Et à côté de ça, il y a d'autres joueurs qui ont l'impression que, comme disait Julo, ce développement se fait au détriment de nouvelles productions.
Mais c'est pas forcément le cas. Regarde pour Uncharted, ils ont fait ça, un studio. C'est pas forcément le cas, mais c'est une impression.
Ils se disent, ouais, les budgets peuvent peut-être auraient pu être utilisés ailleurs. Ou alors, plutôt que de nous sortir des remasterisations,
est-ce qu'on se fait une seconde du souci sur le budget d'Uncharted 4 parce qu'il y a un remaster, tu vois. Ou
non, mais Uncharted 4 ou un autre jeu.
Les mecs, ils ont pas besoin
parce que c'est Sony qui paye. Hein. C'est,
mais en général, c'est quand même les grands jeux, les grandes séries, les jeux importants qui sont remasterisés. Donc,
oui, oui. Mais je te dis, après, c'est pas forcément censé ou justifié. Je vous donnais juste les deux états d'esprit dans lesquels les joueurs se placent vis-à-vis des remasterisations.
Donc, voilà. Très bien. Bon, allez s'orienter vers un autre débat maintenant.
Ah bon, un débat
non, on reste sur celui-là un petit peu. Non, bon, d'accord.
Non, on va s'orienter vers un autre débat qui concerne, et vous le voyez si vous êtes premium, sur la table devant nous, il y a plein de petites figurines.
Oui.
Dont notamment celle de Skylander Superchargers qui est sortie ce 25 septembre sur à peu près toutes les plateformes.
On dirait Pirates des Caraïbes.
Ouais, on dirait aussi Koh-Lanta.
Koh-Lanta.
Regardez, imaginez. Et là, c'est l'épreuve d'immunité pour Mundir.
Mundir, le ouf.
Le mangeur de chèvres.
Non, c'était pas lui.
Le casseur de bouche.
Voilà.
Ah, il casse des bouches, lui.
Et donc.
C'était peut-être pas lui non plus.
Et donc, Skylander Superchargers qui.
Sorti le 25 septembre.
Qui est sorti le 25 septembre, comme je le redis une autre fois.
Exact.
Il serait pas sorti le 25 septembre.
Si, sorti le 25 septembre.
Ah, d'accord. Toutes les bonnes boucheries chevalines.
Et donc, c'est un des nombreux jeux avec jouets intégrés, on va dire, ou en tout cas qu'on vous oblige à acheter pour pouvoir en profiter.
Alors
pleinement.
On t'oblige pas exactement.
Mais non,
si,
tu
on te force,
on t'incite très fortement.
Voilà, on te
pour
met,
en voir tous les détours.
On te met un pistolet sur la tempe en te disant achète.
Bah évidemment c'est mieux. Hein, parce
et évidemment, ce
l'intérêt.
N'est pas le seul. Il y a aussi Lego Dimensions qui est en cours de test.
Yes.
Du côté de chez Romain et Disney Infinity
3.0.
Qui est arrivé en version 3.0 début septembre. Et on se demandait, est-ce que le jouet vidéo, c'est pas une mode qui va s'essouffler un peu comme qui est déjà en train de s'essouffler un peu comme c'était le cas pour les jeux musicaux qui reviennent cette année,
qui ont eu une
un passage à vide,
il y a eu un gros trou,
gros passage à vide
après avoir été un carton
monumental.
Je pense qu'Activision n'est pas prêt de faire une pause avec les Skylanders, hein.
C'est vrai,
pas encore en tout cas.
Même si les chiffres de vente sont quand même assez
En fait pas tellement,
on n'a pas
en
encore
fait.
Ceux de Superchargers
ouais pas tellement en fait. Il y a eu une baisse de régime avec le précédent épisode,
Trap Team.
Trap Team, ouais. Qui intégrait donc cette nouveauté de pouvoir enfermer les monstres ennemis dans des espèces de petits pièges. Ça rajoutait des figurines aux figurines. C'était une nouveauté pas extraordinaire. Et je crois que les joueurs ont du coup pas été aussi présents que d'habitude. Ouais. Les jeunes joueurs et leurs parents qui leur achètent tout ça. Mais quand tu regardes les chiffres, l'épisode juste avant, qui s'appelait donc Swap Force, a cartonné. Il est quasiment au niveau
du premier
et même il doit y être, parce que dans les chiffres qu'on a eu qui viennent de VG Charts, la version PC n'est pas comptée, et surtout les versions iOS qui ont été introduites de manière extrêmement poussée avec Swap Force. Ont dû cartonner, hein. L'application est gratuite, mais il faut acheter un petit pack comme vous voyez sur la table devant nous, dans lequel il y a un portail qui permet de jouer ensuite avec ton iPad qui est accroché au portail. J'ai fait jouer mon fils comme ça, il a surkiffé. Et c'est quasiment aussi beau que sur console, vraiment. Donc ça d'une part, je pense que vraiment Trap
c'est vrai
Team,
qu'il y a eu une espèce de dégringolade, hein, depuis
avec Trap Team
qui est passé sous la barre des 4 millions de ventes.
Voilà, mais
global.
C'est 4 millions de ventes, et t'imagines que je sais pas combien ils vendent de figurines en moyenne par pack vendu. Je pense qu'il y en a au minimum 3-4 de plus, hein. C'est des milliards de dollars qui sont avec cette série qui est aussi importante pour Activision que Call of Duty. Après voilà.
Mais en termes de jeu,
j'aurais tendance à penser, en ce qui concerne Superchargers,
tu penses trop
que au moins sur Wii U le jeu se vendra mieux que le précédent Skylanders, parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire un partenariat avec Nintendo et de proposer des Skylanders / Amiibo Bowser et Donkey Kong. Donc rien que pour les collectionneurs et les fans hardcore de Nintendo, je pense que sur Wii U il se vendra mieux que le précédent Skylanders.
Il n'y a aucune autre manière d'avoir les Skylanders Amiibo
que sur Wii U
que dans le pack. Non, faut acheter le pack, faut acheter le jeu, quoi. Tu peux pas acheter juste l'amiibo.
D'accord.
Donc, ils ont été malins.
Et pour info, ces amiibo Skylanders ont deux modes, c'est-à-dire
c'est Donkey et Bowser.
Voilà, donc t'as un petit switch sur la figurine qui permet de passer du mode Skylanders au mode amiibo.
D'accord.
Et évidemment, elles ne sont pas compatibles quand tu essayes de les mettre. Mettons, t'arrives à te les procurer. Si tu y joues sur PS4 et que t'essayes de mettre ton Skylanders
amiibo, le scandale.
Ça ne marche pas, évidemment. Tu peux pas avoir Bowser dans ta PS4.
Ah, d'accord. Mais en termes de jeu, c'est pas.
Alors en termes de jeu, ils se sont
domaine de l'enfant, quoi.
Alors si, alors je pense que Romain va nous très bien nous parler de Lego Dimensions et notamment de cet aspect comment dire, multigénérationnel, transgénérationnel, parce que c'est limite, je pense, plus un plaisir pour les adultes que pour les enfants.
Ah, pour la God Dimensions, voilà. Ouais, mais pour les autres.
Alors que Skylanders, c'est plus un jeu qui plaît énormément aux enfants. Autour de moi, c'est un truc de fou. Et qui est très agréable pour les parents. C'est vraiment un jeu agréable à jouer à deux.
Je peux te dire, c'est vraiment agréable, comme ça je peux laisser mes enfants dans un coin.
Non, justement, c'est vraiment un jeu
qui me fait aller au casser.
Beaucoup plus que Star Wars, que Disney Infinity qui fait du split screen quand tu joues à deux, qui est un peu plus chacun dans son coin, et bon, mais qui a des bons côtés aussi avec l'aspect créatif et tout ça. Skylanders, on va dire, c'est assez, ça reste universel parce qu'on peut jouer entre parents, enfants, quoi. Et c'est diaboliquement efficace. C'est-à-dire que le gameplay est super chiadé. Cette année, ils ont encore amélioré les choses, l'aspect exploration avec donc Superchargers, hein. L'aspect exploration, niveau de difficulté qui est désormais voilà, et cette introduction donc des véhicules qui est la nouveauté, qui est beaucoup plus parlante et beaucoup plus intéressante que la précédente nouveauté des pièges, hein, qui permet de, comment dire, de rendre le gameplay beaucoup beaucoup plus varié. Ce qui était peut-être l'un des petits défauts de Skylanders, qui est répétitif dans sa formule, et là, en plus, voilà, d'avoir des nouvelles figurines, des trucs sympas, ça apporte véritablement plein de choses au jeu.
Tu penses que ça va motiver les joueurs de tout âge ?
Bien sûr, je pense que les gamins sont comme des oufs avec les bagnoles. C'est parce qu'en plus, donc les véhicules sont terrestres, marins ou aériens. Et du coup, ça apporte une vraie variété. Il y a des courses à la Mario Kart qui ont été intégrées. On peut jouer en ligne maintenant. Il y a des leaderboards. Les niveaux sont beaucoup plus larges, beaucoup plus variés en leur sein, parce qu'il faut passer d'un véhicule à l'autre, d'une figurine à figurine plus véhicule.
Il y a 100 000 figurines de plus.
Et quand je te dis diaboliquement efficace, c'est que, comme d'habitude, ils incitent énormément les enfants à réclamer plus de figurines, parce que quand tu es dans niveau, il y a des choses qui ne s'ouvrent que avec
certain type de figurine.
Voilà, pas telle ou telle figurine,
figurine
parce qu'il y a beaucoup
figurine
de figurines.
Voilà,
ils introduisent 20 nouvelles figurines, 20 nouveaux véhicules, mais ils sont de chaque type. Et du coup, ça, t'as très envie de pouvoir avoir et un véhicule aquatique, et un véhicule terrien, et un véhicule aérien, parce que ça te permet de faire les.
Mais c'est un peu pay to win quand
même,
tout ça, non ?
C'est du DLC physique en pay to explore, quoi, on va dire.
Ouais. Voilà. C'est un peu.
Pas forcément
vicieux.
Pay to win, parce que tu peux avancer, quoi qu'il. T'avances pas plus vite.
Ouais.
Au contraire, t'avances moins vite, parce que tu fais plus de parties dans les niveaux.
Bah, t'avances moins vite le temps d'aller au supermarché, oui, c'est sûr.
C'est ça, en plus.
Il y a combien de figurines Skylanders jusqu'à
aujourd'hui ? Aujourd'hui, il doit y en avoir plus de 400, je pense.
Les toutes premières sont toujours compatibles avec.
Évidemment, Skylanders. Depuis le départ, c'est la
toujours,
règle.
Toujours compatible.
Les anciennes figurines sont compatibles. Tu les mets sur ton nouveau portail.
Parce qu'il y a le portail. Il y a toujours un nouveau portail chaque année.
Oui, le portail est différent.
Ils avaient arrêté de le faire au départ, et là, maintenant, oui, il y a eu un nouveau portail chaque année, parce que pour Trap Team, il fallait pouvoir mettre les pièges à l'intérieur. C'est un petit orifice hexagonal. Là, et du coup,
c'est
il est de retour.
C'est ce que tu viens de me dire.
Voilà, il est de retour. Cet orifice dans le nouveau. Dans le nouveau portail, mais pour la toute première fois, tu n'as pas besoin d'avoir le nouveau portail pour pouvoir jouer.
Ah.
Tu peux poser tes Skylanders sur l'ancien portail, et c'est d'ailleurs pour cette raison que désormais, comme pour Disney Infinity, le jeu, t'es pas obligé d'acheter le pack de démarrage, tu peux l'acheter en ligne, la version dématérialisée, et utiliser du coup tes anciennes figurines ou racheter les nouvelles, etc.
Ok, d'accord.
Donc, de ce côté-là, on peut pas reprocher à Activision de se foutre de la gueule du monde, parce que 1, les jeux sont bien, 2, ils progressent d'année en année. Cette année, Superchargers a aussi progressé en termes de réalisation. Le jeu est très beau. Il propose du jeu en ligne, etc. Bon, le contenu est vraiment beaucoup plus large,
riche,
et d'autre part, donc toutes les anciennes figurines sont compatibles, tu peux finir le jeu avec juste le pack de démarrage, etc. Enfin, c'est les règles qui ont été inventées, hein, par Skylanders, qui ont été reprises plus ou moins par Disney Infinity et par Lego Dimensions plus récemment. Donc voilà, c'est un super jeu pour les gamins. Je pense que si ça s'essouffle, on va quand même rester dans des proportions très élevées.
Je pense que l'ego va tout écraser,
quoi qu'il arrive. Activision a continué à tirer sur la corde et à proposer des jeux sur une base annuelle, parce que quand tu parles d'une baisse de 2 millions, on reste quand même à 3 millions pour l'épisode qui a le moins marché. Et sur le précédent, on était quasiment au niveau du premier,
hein.
Et encore, ça prend pas en compte, comme tu disais. Moi, je pense que Swap Force, en fait, c'est plus vendu que le premier, qui était le Recordman, parce qu'on compte pas là les ventes iOS.
Ouais, on compte surtout pas les ventes de figurines aussi.
Et puis il y a toujours les figurines.
Parce que c'est surtout ça.
Non, mais ça rapporte des millions et des millions. Oui. Pourquoi est-ce que Lego Dimensions sort cette année? Pourquoi est-ce que Nintendo a fait des amiibo?
Parce que combien de temps est-ce que ça va encore
Bah écoute, moi je pense quelques années.
Tant qu'il y aura des collectionneurs de merde.
Mais tu dis ça, tu dis est-ce que.
Mais je crois que Tarik Tulet est un collectionneur.
Puisque je me pose beaucoup de questions, je me pose aussi la question de pourquoi. Pourquoi il n'y a pas plus d'éditeurs qui font des jeux comme ça?
Parce que je pense que ça coûte cher à produire. Hein,
oui, ça coûte cher à produire, mais tu te rends compte là.
Non, mais c'est tout, voilà.
Mais regarde, dans les années 80, tous les dessins animés qu'on avait, c'était uniquement des publicités déguisées pour des jouets.
Évidemment.
Ils mettaient des dessins animés en chantier pour vendre des jouets. Et le truc,
entre autres.
Pourquoi ils font pas plus ça avec les. Parce qu'en plus, si tu propose des produits plus adaptés à un public adulte, c'est une idée un peu farfelue, mais je pense par exemple à un Marvel vs Capcom 4 où les personnages que tu peux incarner dans le jeu sont liés à des figurines que tu achètes.
Je crois que ça reste un business qui reste on verra ce que va faire Lego Dimensions hein. Mais c'est quand même très dirigé vers le public des enfants.
Mais d'autre part,
Skylanders était le premier, donc il a pu créer une licence.
Lego, okay.
Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une licence énorme, et je pense que
Disney
Infinity l'a prouvé. Mais oui, mais quand je dis énorme, on parle de Star Wars là, dans Disney Infinity. Énorme. Lego, c'est énorme. Comme licence. Après, si tu veux te lancer dans un truc comme ça avec des petits personnages, etc.
Skylanders, c'était totalement inconnu.
Oui, mais c'est le premier. Ouais. C'est le premier à avoir fait ça, et surtout aujourd'hui c'est pas inconnu, c'est la plus connue des licences du genre. Voilà.
Oui, attends que Lego arrive effectivement sur le créneau. Moi je te dis, dans 2 ans, je pense que c'est eux qui raflent tout le marché.
Lego?
Moi je te dis, va faire un tour chez Toys R Us. Il y a 2 ans, il y avait aucun rayon, enfin il y avait un petit rayon Lego. Cette année, ils ont quasiment.
Disney Infinity en termes de vente, je pense que
tout est. Oui, mais alors là pour le coup,
Lego Star Wars, Lego machin, Lego bidule, Lego Avengers.
Tu réponds à ta propre question, mais là c'est pas Lego. C'est Lego plus quelque chose d'autre, parce que ce qui a sauvé Lego de la faillite, ce sont ces jeux vidéo
et ces licences,
basés sur des licences genre Indiana Jones ou Star Wars et les licences sur les vrais jouets. Finalement, Lego, c'est pas ça qui est le plus porteur, ce sont les licences auxquelles ils s'associent. Ouais. Et je sais pas, j'aime beaucoup, je me disais quand j'étais gamin, enfin je réfléchissais si j'avais eu un jeu de catch par exemple, ou parce que moi je jouais avec les figurines des catcheurs, si j'avais eu un jeu vidéo, avec mes cousins, si j'avais eu un jeu vidéo qui me permettait d'associer mes figurines avec un jeu de catch, ça aurait été génial. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi pas plus de marques font
des choses
comme ça.
Mais attends, il y en a déjà beaucoup, et moi je pense qu'il va y en avoir encore qui vont essayer d'introduire. Ouais, non, mais tu comptes pas les amiibo.
Oui, mais les amiibo, c'est pas pareil, parce que ils te débloquent pas des trucs dans le jeu, enfin de vrais trucs, genre par exemple dans Smash Bros.
Et il ne tient qu'à Nintendo de le faire mieux, mais je veux dire, c'est que sur le marché quand même, t'as les Skylanders qui a créé le business.
Oh là là là.
Ça a été rejoint par Disney Infinity. Cette année, ça fait quand même que 4 ans. C'est le cinquième Skylander. C'est le cinquième Skylander, c'est le troisième Disney Infinity. Et là, il y a à nouveau une nouvelle licence. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et je pense qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, il y en a qui vont se casser les dents.
Ça va créer un.
Bah, ça va être trop. Tu peux pas avoir 15 000 figurines Skylanders, les figurines Star Wars, machin, avoir tous les jeux et tout. Au bout d'un moment, il y a pas de la place pour tout le monde.
Un petit peu remplies aussi.
Je sais pas par exemple si on peut comparer avec le jeu musical, parce que je le vois sur Twitter, je le vois sur Internet d'une manière générale.
Bah, le jeu musical a quand même marché immédiatement.
Ouais,
Lego Rock Band alors.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à imaginer une saturation similaire du marché, parce que je vois qu'à côté, des figurines seules qui ne sont compatibles avec rien et qui ne sont simplement des figurines dédiées aux collectionneurs. Je parle pas des jouets pour enfants, je parle des figurines vraiment de collection. Ça continue de marcher et ils t'en sortent sans arrêt des collections à tire-larigot, toutes les licences. Donc je sais pas, je pense qu'il y a un attrait qui est perpétuel pour les figurines et pour les petits objets de collection comme ça. D'accord. Et après, tu vois, il y a Disney Infinity. J'ai pu y jouer à l'E3, j'y ai joué un peu avec Julo. Même si les licences sont très fortes, Star Wars, Marvel, etc., le jeu en lui-même reste quand même super enfantin.
Bah oui, c'est ça, c'est de ce côté-là.
Attends,
là
alors non, Disney Infinity.
Ah non.
qui était assez chiant dans ces deux premières moutures.
Je m'inscris en faux.
Est devenu vraiment très 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 sympa à jouer avec Star Wars là. Ouais, d'abord parce que c'est Star Wars et en voilà, plus parce que les, et encore une fois et ils ont amélioré le, leur gros problème de Toy Box qui était un petit peu trop compliqué à utiliser, y compris pour les enfants accompagnés de leurs parents. Franchement,
je confirme, même moi,
c'était
y compris pour les politiques initiales
voilà exactement ouais. Donc ils ont déjà simplifié la Toybox et surtout ils ont compris que il fallait ajouter du contenu aventure entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle ça les packs aventure hein, avec la livraison donc de l'aventure Star Wars qui est juste
l'aventure.
Vraiment un super jeu, c'est-à-dire que tu visites Naboo, toutes les planètes Star Wars, tu montes à bord des vaisseaux Star Wars, tu vas dans l'espace pour aller sur une autre planète, tu te poses, il y a des aventures, tous les personnages, les vraies voix, etc. C'est d'une puissance en termes de licence et d'exploitation de licence de qualité quoi. Ils sont montés d'un cran et je pense que tu vois quand on regarde les ventes, Disney Infinity 1 et 2 ils sont quand même vendus, donc le premier à 4 millions et il a fait pas mal de déçus, ce qui explique, enfin 4 millions et demi même, ce qui explique pas mal la grosse baisse qu'il y a eu pour Disney Infinity 2 qui est même pas touché les 3 millions.
Alors qu'il faisait arriver Marvel quand même.
Alors qu'il faisait arriver Marvel, il a fait beaucoup moins bien. Bon, là, sais. Je pense que cette année, ils vont relever la tête. Mais là, on parle de millions hein, quand même. T'imagines les
1 million, plus 2 millions, plus 3 millions.
Les figurines qui sont venues avec. Skylanders, on tourne plutôt autour des 5 millions, à part pour Trap Team, qui est plutôt à 3,5. Lego, on verra. Mais putain, c'est un business gigantesque.
Ah oui, c'est un business gigantesque.
Et les gamins en sont
fous. Et tu penses, Disney, qu'on est pas.
Moi, je pense qu'on n'est pas à la fin du tout.
On n'est pas au bout là.
Non, la lassitude va commencer à s'installer progressivement.
On
n'est
pas à Abu Dhabi.
Je
pense aussi que c'est pas prêt de s'arrêter. Et je pense qu'ils ont justement tort de pas développer le truc plus. Parce qu'imaginez, reprenez Disney, c'est quand même number one quoi, en termes de puissance de licence. Et maintenant, ils ont tout. Ils ont tout Disney. Enfin, ils ont Star Wars, ils ont Marvel, etc. Imaginez un jeu avec une esthétique plus à la Batman Arkham, par exemple.
Ça marcherait pas.
Le même concept, genre t'achètes tes figurines Han Solo, Dark Vador ou Iron Man, etc. Mais de belles figurines avec un truc.
Oui, mais là, tu t'attends plus aux enfants. Les parents achèteront plus.
Mais oui, mais qui a la thune? Ce sont les adultes.
Ouais, mais ils vont pas acheter ça pour leurs gamins, ça va coûter trop cher.
Mais attends, je te dis le business.
Ils sont d'accord pour acheter des.
Je te dis le business des figurines et des produits dérivés, trucs comme ça. Les gens,
pour les adultes, oui, mais pas pour les enfants.
Mais là, je te parle pas des enfants. Moi, je pense juste qu'il y a un secteur à prendre.
Bah vas-y, fais-le.
Genre des jeux comme ça avec des figurines.
Côté adulte.
Mais plus. Avec des trucs plus sophistiqués esthétiquement.
Oui, mais il y a des trucs en cours. On avait fait un reportage sur ce jeu développé en France, dont je me souviens.
Prodigy.
Ah oui, Prodigy, voilà, c'est ça. Qui a décidé d'utiliser donc plus un design plus proche des
figurines de Donjons et Dragons.
Voilà, ouais, mais avec un look un peu coréen, quand même, japonais.
Oui, mais là, il leur
des trucs super classieux.
Ah, mais là, il leur manque une chose. Il leur manque
la licence.
Star Wars, il leur manque Avengers, etc. Moi, je te dis juste que Disney, et c'est ce que. Et Lego fait une partie parce qu'ils vont quand même.
Mais qu'est-ce que je voudrais que fasse Disney un Disney Infinity pour les grands.
Ouais.
Avec des figurines.
Avec un gameplay peut-être un petit
avec
peu
des figurines
plus
d'art.
Sophistiqué et des figurines plus.
Mais
t'as
pas,
plus réalistes.
Et le gameplay de Disney Infinity est assez cool, hein.
Ouais, oui, mais c'est comme Lego,
combos.
le gameplay ouais, il est quand même
ils ont,
assez simpliste.
Dans Lego, je sais pas, j'y ai pas joué, mais dans Disney Infinity, ils ont créé un système de. C'est un beat'em all, hein.
Combo, je sais, j'y ai joué un petit peu.
De combo qui a été fait par Ninja Theory.
Ouais,
c'est des vraies aventures qui durent longtemps.
C'est 40 heures.
Ouais, tu pilotes des vaisseaux, t'as des phases de shoot, enfin je sais pas, c'est.
Ouais, mais ça reste assez simple.
Le look est assez enfantin.
C'est, mais c'est normal, hein, c'est normal, c'est le but, hein. Faut quand même que les enfants puissent y jouer facilement. Et par contre, parce qu'on n'a pas du tout parlé de Lego Dimensions jusqu'à présent, eux je trouve qu'ils font un coup de génie au sens où ils s'adressent plus directement. À un public plus âgé.
Attendez, on parle de Lego Dimensions là ?
Oui.
D'accord. Voilà.
Forcément, c'est. Oui.
Parce que.
Je dis ça pour rien.
C'est la fibre nostalgique.
Il s'adresse à un public plus âgé, mais pas que, parce que c'est vraiment un mix. Par exemple, t'as Lego Ninjago ou Legends of Shima, trucs comme ça, qui sont clairement destinés aux enfants.
Oui.
Mais à côté de ça, t'as Retour vers le futur. Et le pack niveau Retour vers le futur, ce sont pas des enfants de 7 ans qui vont le réclamer.
Bah, oui.
Sauf s'ils ont découvert ça avec leurs parents, mais d'eux-mêmes, ils vont pas le demander. Ouais. Ou Ghostbusters, c'est pareil.
Non.
Et je trouve que ça, c'est vraiment bien. Et en plus, on en parlait déjà avec Julo, je trouve que le concept du jouet vidéo est poussé un petit peu plus loin avec Lego Dimensions, parce que déjà, tes Lego, tu dois les construire. Genre la Batmobile que t'as avec le pack de démarrage, bah, il faut la construire.
Et, on parle,
et
on...
le portail, il faut le construire aussi.
On parle vraiment comme, un, comme si t'étais joueur avec des Lego à faire toi-même.
Ah bah en fait, c'est tout bête. C'est que, par exemple,
on parle de ta réalité quoi.
Tu commences Lego Dimensions, t'as une première cinématique avec Batman dans l'univers Lego Batman.
Batman.
Et il se passe un truc. Ensuite, pareil avec, avec Seigneur des Anneaux et avec Lego le film. Et ensuite, t'as une notice géante qui apparaît sur l'écran. Maintenant, faut monter le portail. Et donc, tu as les pages qui se déroulent sur ton écran et tu dois monter le portail sur lequel tu poses tes figurines. Alors, au fond, si ça te fait chier, tu peux très bien poser tes figurines sur le portail tel qu'il est et pas monter le décor, on va dire.
Moi je dirais que c'est pas forcément le concept qui est plus poussé, c'est le fan service quoi. Parce que franchement, quand tu vois Batman à côté de Marty McFly et de et Gandalf
et Homer Simpson,
voilà, qui vont à Jurassic Park hein, pour reprendre la photo que t'as publiée sur Twitter hier, c'est le kiff quoi.
Bah ouais, là, pour ceux qui ne l'ont pas
pour
vu,
pour les adultes hein, plus que pour les enfants,
pour ceux qui n'ont pas
Simpson,
vu,
regardez Homer Simpson,
t'as Homer Simpson, Marty McFly et Batman devant le portail de Jurassic World.
C'est trop bien. Oui, c'est ça,
c'est
qu'il
truc
faut.
Totalement improbable. Et en
et
plus,
bah, moi,
les personnages, ils ont plein de petites interactions, entre eux. Par exemple, je jouais hier et qui se déclenche tout seul. Hein. Je jouais hier avec Marty McFly et il dit Pierre Cardin, Calvin Klein. Oh, il aurait fallu que je me trouve un pseudo plus cool comme Batman ou Superman. Ou alors je pose Homer sur le plateau et
il
apparaît dans le jeu.
Tout,
et au bout de deux secondes, il se retourne, il fait ouh, Batman. Comme ça, il y a plein de petits dialogues et
ils
des références.
Tous les uns avec les autres.
Et voilà, des références cross licence comme ça, des blagues, c'est super bien écrit.
C'est génial.
C'est très drôle. Par contre, le gameplay, c'est comme les jeux Lego.
Mais encore une fois, pour reprendre ce qu'on disait avec Star Wars, t'as pas envie que ce soit un gameplay plus plus adulte, que ce soit des Lego.
Ce sont des Lego. Après, il faut garder ça.
Bah justement, c'est ce qui fait que ça plaît aux adultes, c'est pas forcément.
Je sais pas si les figurines, comme tu disais, plus chiadées, mieux foutues, ça marcherait plus parce que je pense qu'à produire déjà, ça coûterait vachement cher.
Oui, ça coûte.
Non, alors le truc qu'il faut préciser, c'est
une collector de temps en temps, mais alors.
C'est que le truc NFC,
oui, ça serait vendu plus cher, c'est sûr.
La puce NFC, elle est pas dans la construction Lego en elle-même, elle est dans le socle.
Et dans tes seufs.
Et moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait vraiment que tu puisses faire construire quelque chose avec des Lego, le poser et que ça, il apparaisse à l'écran.
En fait, c'est pas comme ça. Tu peux feinter le système et dire que t'as construit ta Batmobile alors que t'as rien.
Oui, en fait, t'as juste posé le truc.
Ouais, t'as juste posé le truc. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que
la
figurine, contrairement à un Amiibo ou un Skylander par exemple, la figurine, elle est pas figée sur le socle. Ce qui fait qu'une fois que t'as éteint une fois que t'as éteint ta console, tu peux très bien décider de retirer ton Batman de son socle et aller jouer avec tes autres Lego que t'as à côté qui ne sont pas du tout liés à Lego Dimensions. Tu vois, ça fait double emploi.
Alors précisons également que le portail a des positions particulières.
Vraiment
en fait,
magique.
Il y a sept positions sur le socle.
Il y a des énigmes qui sont basées dessus.
Et tu peux matcher comme tu veux en fait. Tu peux décider de mettre 7 personnages dessus différents. Bon, après, comme tu as de temps en temps besoin de véhicules, ça va pas être pratique, donc tu vas être obligé de switcher. Mais tu fais comme tu veux. Par contre, le socle est éclairé et il peut changer de couleur. Et ce qui fait que tu as pas mal d'épreuves, d'énigmes qui te demandent de placer les figurines à certains endroits en fonction des couleurs qui apparaissent sur le truc. Et c'est pas tout le temps utilisé de la même manière. Donc en fait, le socle est vachement bien utilisé dans les Lego Dimensions.
Et d'ailleurs, donc ce principe de position différente sur le socle, c'est quelque chose dans le jeu dont on parlait tout à l'heure. J'ai du mal. Non. Le jeu français là.
Le jeu français Prodigy.
Prodigy, voilà. Dans Prodigy, c'est ça aussi. Ils font une espèce de jeu de stratégie. Tu peux bouger tes pions finalement sur des cases. Qui sont en fait un damier. Voilà.
Ouais, mais là, c'est presque comme un damier.
Ça, c'est un développement intéressant de la formule. Sympa,
On se souvient dans les années 90, quand il y avait un test d'un jeu à licence, tout de suite, on partait avec un a priori négatif. On disait, merde, ça avait été
ça
fait.
A bien changé, hein.
Ça a été fait vite fait, etc.
En général,
là, t'as un amour pour les licences utilisées.
Lego porn.
Qui est assez. Non, mais c'est un peu ça. Qui est assez dingue. Par exemple, et tu peux pas t'empêcher de sourire. Moi, j'en ai parlé à maintes reprises dans les podcasts et sur le site, etc. Je suis un énorme fan de Retour vers le futur. Tu rentres dans le Hill Valley Lego, et là, t'as Power of Love du L.A. Lewis qui se déclenche.
It's the power.
Et une fois que la chanson est terminée, c'est l'OST de Retour vers le futur qui commence. Et pareil, malheureusement, dans les Simpsons, t'as la voix française ouais, d'Homer. Chier, mais t'as pas le générique, t'as pas le générique des Simpsons. Ouais, enfin, je l'ai pas entendu. Cher, c'est dommage, mais t'as tellement d'autres trucs et t'as une sorte de catalogue interactif qui te montre dans le jeu les figurines que tu peux acheter, etc. Et bon, j'en suis pas encore dans Ghostbusters, mais j'ai vu que sur le quand tu vas sur la page dédiée aux figurines Ghostbusters, et bah t'as le thème de Ray Parker Jr. qui commence, tu vois. Donc ils ont vraiment été loin et dans la VO. T'as énormément de comédiens, t'as Christopher Lloyd, t'as Michael J. Fox, t'as Chris Pratt, t'as Troy Baker. Bon, lui, il fait surtout connu pour ses voix, mais t'as un casting de ouf. Et en français, t'as le doubleur officiel de Doc, t'as le doubleur officiel de Marty, t'as le doubleur d'Homer Simpson, etc. Enfin, ils ont vraiment fait les choses bien et c'est super plaisant.
Faut faire un petit point prix quand même, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de...
Tout ça pour Maryse, 850 000 euros.
Non, parce que tu vois, Disney Infinity avait fait une erreur, je trouve, au départ, c'est qu'ils avaient sorti leur pack à 100$, donc le pack de démarrage, 100€ quoi. Skylanders, ils se sont fixés au prix d'un jeu normal depuis le départ, avec donc le même pack, hein, plusieurs figurines, un machin, 60€. Et là, Lego Dimension sort avec le fameux prix de 100€, quoi. C'est quand même.
Il faut quand même préciser.
Non, mais c'est dommage.
C'est cher. Mais il faut quand même préciser ce à quoi ça te donne accès.
Ça peut rebuter quand même.
Donc pour 100€, t'as donc le jeu, t'as le socle, t'as Batman, Gandalf et Cool Tag.
Combien
d'aventures ? Plus une Batmobile. Alors attends, j'explique. Avec ça, t'as une campagne, et ça, je trouve ça plutôt chouette. T'as une campagne scénarisée, le mode d'histoire principal du jeu, dans lequel tu peux terminer totalement avec ce pack.
Ce qui est cool,
c'est que dans ce mode histoire, tu vois tous les univers, même si t'as pas de figurines. Par exemple, tu vas aller dans le monde des Simpsons. Genre le deuxième niveau, je crois, du mode histoire, c'est le mode Simpsons. C'est le monde
Simpsons.
Est-ce que
tu peux interagir avec
Attends, autre
c'est chose
parce que t'as posé. Ben alors,
non.
T'as bien fait attention à ça.
Oui, oui.
C'était avant.
Que genre, t'as bien bossé. Dessus,
non. Je t'explique.
Parce que dans Skylanders, les trucs s'intègrent à l'histoire. C'est-à-dire le truc supplémentaire, c'est-à-dire le moment où tu mets le pack machin. C'est transparent et t'as l'impression que ça fait partie de la campagne principale.
C'est ça qui est différent. En fait, je vous explique. Tu mets Batman, Gandalf et Cool Tag, donc les trois figurines que t'as. Tu mets que ces figurines-là sur le truc. Ton deuxième niveau, ça sera le monde Simpson scénarisé. Voilà. Par contre, si tu mets Homer, qui lui est inclus dans un pack histoire, ça te donne accès en plus de ça.
Lui, il va interagir
à un autre
pack histoire.
Un niveau supplémentaire scénarisé, ainsi qu'au monde des Simpsons, dans lequel t'as plein de mini-jeux, de petites épreuves.
Il n'y a que lui qui peut interagir dans ce monde-là.
Non, tu peux amener n'importe qui. C'est lui qui sert de clé. Il sert juste de clé pour accéder à ce truc-là.
C'est exactement comme dans les
autres. Même si t'achètes pas Homer Simpson, tu verras les Simpsons dans le mode histoire de Lego Dimensions. Et ça, c'est pareil avec toutes les licences. Donc, par exemple.
Pour t'inciter
par exemple,
à
Ghostbusters,
trucs,
les figurines Ghostbusters sont pas encore sorties, mais je verrai Ghostbusters dans le mode histoire à un moment. Et ça, je trouve ça plutôt chouette.
Non,
t'as un petit aperçu,
t'as un teasing.
Voilà, t'as un peu de teasing. Par contre, dans les jeux Lego, je prends Lego Marvel par exemple, et c'était pareil dans tous les jeux Lego. Tu pouvais traverser l'histoire une première fois, mais ensuite, si tu voulais débloquer tout le contenu,
Lego,
il fallait les refaire avec les persos que t'as débloqués entre temps.
C'est super
là
dur,
en l'occurrence, c'est pas pareil. Là maintenant, si tu veux tout débloquer, il y a certains passages. Par exemple, il y a des sortes de murs blancs, et tu sais que ces murs blancs, tu peux passer à travers que si tu as la figurine de Portal. Donc tu vois, ça, c'est comme ça qu'ils ont adapté.
Ils ont repris la formule Skylanders en fait, exactement.
Mais tu pourras traverser le mode histoire intégralement, plus atteindre le monde ouvert DC Comics, Seigneur des Anneaux et Lego La Grande Aventure avec le pack de base, ce qui représente déjà un contenu, un contenu conséquent. On te pousse à l'achat, mais pas trop. Enfin, c'est ça qui est.
C'est finalement exactement les règles qui ont été posées par Skylanders avec dès le premier.
Et après les prix des figurines.
Mais voilà, c'est quand même 100€. Que... J'en reviens au prix. Vois, 100€.
Non, mais chaque figurine,
c'est 40€ de plus que les autres. Quoi.
Tu vois, c'est un peu abusé. Par exemple, Retour vers le futur, le pack niveau, c'est 30€. Et le niveau Retour vers le futur, tu peux le finir en une demi-heure. Quoi.
Ah ouais.
C'est assez rapide. Bon, après, t'as plein de mini-jeux dans Hill Valley, etc. Mais le truc scénarisé, qui est un peu l'attrait principal du truc, ça se termine assez vite. Par contre, pour revenir là-dessus, je trouve vraiment chouette et bon esprit que dans la campagne principale, il se soit pas limité à Batman, au monde de Batman, au monde du Seigneur des Anneaux et au monde de Lego La Grande Aventure. En fait, Le truc, le mode histoire, il fait presque la promotion du reste. Quoi. C'est de la promotion interne dans,
ouais,
le, dans
c'est
le
jeu. C'est du message subliminal pour te faire acheter le reste. Quoi,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est presque.
C'est surtout ça. Bon, donc si je vous écoute, en fait,
ouais, faut
messieurs,
tout acheter, faut être riche, voilà, c'est bon, on a compris.
Il n'y a pas de problème pour les jouets vidéo, c'est encore une bonne...
Enfin, il n'y a pas de problème, ça fait dépenser plein de thunes, c'est ça
ouais. Ça coûte cher, non, mais c'est sympa.
Ça va, ça fonctionne encore cette année.
C'est vraiment sympa. Lego Dimensions va apporter un vent de fraîcheur parce que Skylanders c'est quand même le cinquième. Hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, cinquième.
1, 2, 3, 4, 5.
Oui, cinquième. Oui.
Et bien,
oui.
Malgré tout, ils arrivent à relancer l'intérêt quasiment à chaque fois, plus ou moins bien. Cette année, franchement, c'est plutôt un bon cru contrairement à l'année dernière. Et Disney Infinity s'est envolé dans les étoiles avec Star Wars.
Donc, sans parler des animaux, évidemment.
C'est quand même différent parce que t'as joué pas mal à Skylanders ici et on entendait le jeu et les dialogues. C'est quand même sons, assez.
Non, par contre,
c'est pas spécialement.
C'est pour les
drôle,
enfants.
C'est pas pour toi.
C'est
totalement
pour les enfants. Il y a un humour très sympa dans Skylanders.
Alors que dans Lego, t'as totalement deux niveaux de lecture. T'as les enfants qui vont prendre ça pour argent comptant. C'est une histoire. Alors que pour les adultes, tu vas noter plein de blagues, de sous-entendus, des références, des trucs comme ça.
C'est clairement l'avantage de Lego, c'est le côté intergénérationnel.
Oui, c'est bien écrit. Parce que ça aurait pu être mal écrit. Et Lego Dimensions, comme les précédents jeux Lego avant lui, sont bien écrits.
Bah, Telltale, ils connaissent bien leur
c'est pas Telltale, c'est Traveler Tale.
Pourquoi j'ai dit Telltale? Parce que ça se ressemble. Traveler Tale, ça fait des années qu'ils font ça.
Oh, bah, les Lego, c'est des pros.
Même
des Lego,
à l'époque où c'était muet, c'était déjà très bien.
Et ils font même référence aux autres jeux Lego. Enfin, là, on a atteint un niveau de référence
méta.
De méta qui est assez élevé.
Ok, très bien. Et donc, vous pensez que s'il y en a un qui doit s'effondrer avant les autres, ce sera lequel?
Non, on s'en fiche, c'est pas grave ça.
Skylanders.
Ouais, parce qu'il est plus vieux et
qu'il a pas de licence forte.
D'accord.
Genre un adulte.
Non, mais
c'est un adulte. Oui, mais un adulte Skylanders, ça lui parle
pas.
C'est peut-être celui qui a
la licence Skylanders extrêmement puissante, justement.
Parce qu'il y a Activision derrière et tout.
Donc toi, t'imaginerais Skylanders?
Ouais. Je pense que si ou alors.
Attention, ils ont déjà une base installée colossale, Skylanders.
Ah, mais c'est un truc de fou.
Donc les gamins. Ils vont grandir aussi tout ça donc après
mais tu sais qu'il y a un effet dans les jouets il y a un effet de mode
lassitude
il y a un effet de mode et les enfants grandissent ceux qui ont grandi avec Skylanders et bah ceux d'après ils auront peut-être pas forcément envie de passer sur Skylanders. Regarde moi les jouets auxquels je jouais étant enfant. Bah, ces licences-là ont disparu au fur et à mesure. Et elles sont peut-être revenues, pour le cas des Tortues Ninja par exemple, c'est revenu 20 ans après. Mais donc tu vois Skylanders, les enfants qui ont connu Skylanders il y a 4 ans, bah ceux 4 ans après auront peut-être pas forcément envie d'y jouer.
Ah, peut-être pas, mais en tout cas
on verra, l'avenir nous dira.
En tout cas, on regardera les ventes.
Nos poches sont plus légères bizarrement depuis que ces jeux sont sortis. On va parler des autres jeux de la semaine.
Pardon, vas-y.
Ah, il y a des jeux de la semaine aussi.
Oui, il y a des autres jeux cette semaine. Le premier, c'était pour ma pomme. C'est pas que je le voulais.
C'est vrai. Mais tu m'as dit que tu voulais le faire.
On fait deviner. C'est super dur.
On va faire deviner rapidos.
J'ai peur.
C'est pas assez fort, non?
C'est Goldorak.
Si, c'est fort.
C'est Bernard Minet, mec.
C'est Bernard Minet. Le plus grand de tous les héros. Je voudrais un Lego Bernard Minet.
Puisque
c'est que ça va arriver.
Chevalier Zodiac.
Et Dorothée.
C'est Saint Seiya Soul Your Soul qui est sorti cette semaine sur PS4, PS3 et PC, si je ne m'abuse.
Peut-être, je ne sais pas.
Si, PC.
Il me semble. En tout cas, c'est un
jeu. De toute façon, vous n'allez pas l'acheter.
Voilà. C'est la chance.
Il y a eu Brave Soldiers qui est sorti il y a 2 ans. Qui était exactement la même chose, c'est-à-dire un sous Naruto.
Soyons clairs, je suis un énorme fan de les Chevaliers du Zodiac, genre hardcore et tout.
Ouais,
je l'achète. Je
l'achète les figurines plutôt.
Voilà.
Parce que le jeu, enfin, il y a un truc qui attire tout de suite, c'est que effectivement, t'as la campagne solo qui te permet de revivre l'attaque contre le Grand Pop, suivi d'Asgard, qui est inédit. Asgard, c'est la première fois qu'on va jouer Asgard dans un jeu Saint Seiya.
Super, achetez-le, ouais, vite.
Et donc plus Poséidon et Hadès. Mais vraiment, le jeu est impossible à apprécier. Il n'y a pas un truc qui est sauvable. La réalisation, t'as l'impression que c'est un jeu PS2. La mise en scène est atroce, est tellement bâclée. Les dialogues n'ont aucun intérêt et vraiment, en termes de, comment dire. Ouais, de mouvement de caméra, etc. C'est mou du derche, mais
ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu un bon jeu Chevalier
depuis,
du
Zodiac. Depuis la NES, la NES était très bien, je trouve.
Très bien.
Ah, moi j'adorais la version.
D'accord. Je le dis maintenant, je pense que tu changeras.
D'accord.
Et donc voilà,
je te laisse le responsable.
On se retrouve avec un espèce de sous Naruto rigide.
Une espèce.
vraiment rigide à souhait, où quand t'appuies sur la garde, bah ça marche une seconde après.
Elle ne se rend pas, elle se meurt et elle ne se rend
et
pas.
Et donc du coup quand tu te prends, quand tu commences à te prendre le premier coup, tu sais que le combo tu vas te le bouffer. Mais genre jusqu'à la fin du combat.
Jusqu'au trognon.
Il était génial Bernard Minet.
Et donc ouais, c'est donc un c'est sale jeu.
T'as mis combien? 0
J'ai mis 1,5 peut-être.
1,5 ouais ça va.
Ouais, 1,5 pour le fait que.
Pour le générique.
Non, pour le
générique de Bernard Minet, non.
On est l'histoire. Bah, t'imagines s'ils le mettaient dans un jeu les persos.
Tu lances le jeu et t'as Bernard Minet qui commence.
Une boutique in-game, donc qui demande beaucoup de pratique pour débloquer toutes les armures et tous les persos.
Je sais pas, moi, regarder comme ça, je suis fan, je trouve ça pas mal fait quand même.
Non, franchement, non.
Mais je suis pas fan donc. Bon,
ouais, mais t'avais la même chose sur PS3 en fait.
Exactement.
T'as l'impression que ça a évolué visuellement.
Non, mais d'ailleurs, mais là, c'est un jeu PS3 que... qui sort sur PS4. Hein.
Ouais, on sent qu'ils n'ont pas eu
qui
beaucoup de budget.
Qui sort aussi
hein.
sur PS4.
Ouais.
Donc voilà.
Mais la licence tiens, regarde.
Cher. C'est une tristesse, malheureusement.
Voilà un éditeur qui aurait tout intérêt à faire un jouet vidéo. Ouais. T'imagines Bandai Namco qui te fait un jeu crossover avec toutes ses licences de manga. Ouais. T'as du Naruto, t'as du One Piece, t'as du Chevalier du Zodiac, t'as Dragon Ball.
Ils sont dans le jouet.
Avec des figurines.
Ils sont dans le jouet.
En plus, eux, ça serait le plus simple.
Ils auraient dû y penser depuis longtemps, en fait.
Ouais, mais il faudrait que les jeux y suivent. Et là, avec
un bon jeu, évidemment.
C'est pas le cas du
tout.
Vraiment, c'est dommage. C'est dommage.
Parce que là, les figurines du Chevalier du Zodiac, des BZ, tout ça, ce sont des adultes qui les achètent maintenant.
Ouais, carton, ouais.
Et ça marche bien.
Ah, ouais, c'est absolument.
Sûr. T'imagines?
J'aurais pensé.
Donc voilà, c'est malheureusement. Non.
Bah c'est pourri.
C'est non.
Voilà.
Et bien on va passer à un jeu beaucoup plus.
Le
réussi,
basketball
du coup. Exactement, beaucoup avec plus George Eddy.
George Eddy, c'est pas moi, George Eddy.
C'est pas moi, je pensais qu'il y avait une
George Eddy. Tu sais qu'il est chez Canal Plus africain maintenant.
C'est vrai.
Un
ouais,
slam
il a été
dunk.
Remis au placard.
Je pensais que t'allais nous faire l'imitation.
Et tu crois qu'ils vont lui envoyer Darren Tullet pour le rejoindre?
Non,
ou...
non. George Eddy, un vrai commentateur de ouf.
Bah, un ancien joueur.
Darren Tullet, rien à voir avec lui.
Ah, moi, George Eddy, c'est une
ils
des voix. C'est une des voix de mon enfance que je regardais beaucoup de basket quand j'étais plus jeune.
Il était la voix de la NBA sur Canal depuis 20 ans.
30 ans.
La nuit à 30
ans. 29 ans, je crois, exactement. Et donc ouais, ça l'a fait tout drôle quand il a fait son dernier match d'Europa League, machin truc là.
Enfin bon, on n'est pas là pour parler de
non,
Eddy,
non mais bon, bah si si, quand
tu dis
NBA 2K16,
un petit salut, NBA 2K16 évidemment. Le
Qu'est-ce
meilleur jeu
donne,
de basket du monde, toujours aussi bien, fantastique.
Alors, c'est pas toi qui a fait le test, hein, c'est,
non, c'est
petit
Olivier
Cortinavis.
Exactement.
Mais toi tu y as joué aussi parce que tu aimes le basket.
Et toi tu vas faire NBA Live, dommage.
Oui, je vais retomber d'un cran là, tout d'un coup ça va me faire bizarre.
Deux, trois crans.
Ça, tu l'as déjà lancé?
Oui, je l'ai lancé, ouais.
Ah, d'accord.
J'ai un peu flippé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, NBA 2K16, bah,
est
toujours
c'est
aussi
toujours
bien,
le
amélioré.
Meilleur jeu de sport qui existe, tous.
Bah, honnêtement, oui, sans problème.
Ouais.
Surtout avec le F1 2015 qui était une vraie catastrophe. Mm-hmm. Donc, oui, maintenant je peux dire que c'est le meilleur jeu, enfin, à valeur égale, entre guillemets, par rapport aux autres sports.
Ouais.
Bah, après, au niveau du foot et tout ça, ça reste aussi extraordinaire.
Non, moi j'adorerais que les mecs qui font ça fassent un jeu de foot.
Mais voilà, ils sont au-dessus du game.
T'auras un jeu de. Oui, après,
c'est
peut-être un peu plus simple à faire qu'un jeu de foot, je sais pas.
Oui, bref. Bah, il y a que 5 mecs contre 5
voilà,
mecs.
Voilà, c'est
quoi,
ça. C'est peut-être un peu moins compliqué, tout ça. Bon, ils ont tout changé. Hein. L'IA est vraiment mieux.
Ah,
les attaques maintenant,
mouvement et tout.
Elles sont moins automatisées par rapport à avant. Il faut tout faire manuellement. T'as Spike Lee qui a fait le scénario du mode carrière, etc.
Ah, il a fait le scénario.
Voilà, exactement.
Ah, d'accord.
C'est un joint Spike Lee, c'est marqué.
Ça sera peut-être mieux.
Le joint de Spike Lee.
Ça sera peut-être mieux que son remake de Old Boy, non?
Bah, il faut aimer le style
joint,
de Spike Lee.
C'est, ouais, c'est utilisé pour dire.
Puis évidemment, t'as
toutes
les équipes de NBA, les franchises.
Ça va, vous en avez pas.
Bon, merci. C'est pff, de toute façon, faut le voir. D'ailleurs, le premier truc qui m'a frappé moi sur NBA 2K16, c'est le lancer de balle. Quand tu lances la balle,
tu la sens.
T'as plus, non, mais t'as plus le. Je sais pas comment dire. Le cassé de poignet est ultra bien fait maintenant.
Ah bah oui,
alors qu'avant, il y avait toujours un petit défaut.
Tu sais qu'ils l'ont refait.
Oui, je sais, ils l'ont refait justement.
Ils ont refait les
animations du poignet, etc. Exactement.
Et des pieds,
au
c'est-à-dire que maintenant,
au niveau du lancer, ton pied est vraiment appui, etc.
Ils ont géré
la flexion du pied.
Et sa flexion au niveau des doigts de pied.
Exactement. Mais ça se voit. Mais c'est vraiment,
wow,
ça se voit au niveau du poignet.
C'est des ouf, les mecs.
Et c'est radical, quoi.
Et chaque année, il s'améliore. Hein.
Mais, tu vois...
mais le truc le plus impressionnant, c'est l'impression d'être devant une
bah,
retransmission.
C'est
quoi.
Retransmission.
Et voilà,
t'as les commentaires, t'as les.
À chaque fois que j'ai joué.
Les interviews, les
À chaque
machins,
fois que j'ai joué à NBA 2K, c'est la réflexion que je me suis fait. À chaque fois. C'est que
tu
as un niveau de réalisme dans la présentation qui est ouf. Les sponsors, la mise en scène, t'as l'impression que t'as allumé une chaîne américaine.
Exactement.
Et les commentateurs, leur manière de se répondre, genre de renvoyer vers la nana qui est sur le bord, qui est sur le bord du terrain, la manière d'adapter les stats au fur et à mesure de la partie, etc. Il y a aucun jeu de sport qui propose des commentaires,
non,
une présentation à la NBA 2K. C'est pour ça que moi, quand 2K a récupéré la licence des jeux de catch, je me suis dit putain, génial. Ils vont te faire une retransmission virtuelle. Bah non.
Bah non.
Et pourquoi ?
C'est pas encore ça.
Parce qu'ils gardent, les bases établies par les développeurs japonais depuis des années, depuis la génération précédente.
Ouais, mais c'est
et ils continuent de nous faire quasiment le même jeu à quelques détails près. Et les améliorations, elles sont pas aussi.
Mais peut-être qu'un jour ils vont tout changer et puis ils vont apporter un truc.
Ça serait bien. Mais ouais, ça me fait baver à chaque fois que je vois NBA 2K parce que c'est tellement bien foutu.
C'est vrai que dans la réalisation.
Sprite présente la rencontre Bulls contre Blazers. Ouais. Alors on retrouve machin sur le bord du terrain. Oui, alors là je suis en train de
d'entendre coulé, c'est fluide.
Voilà,
c'est
j'entends le coach qui est en train de dire machin à ses joueurs et truc. Enfin, c'est hallucinant. Mmh. Mmh. Hallucinant,
t'as tout,
vraiment.
T'as le jeu en ligne, t'as les.
Alors en plus, comme visuellement, ça s'améliore en parallèle d'année en année.
Et là, vous remarquez, on n'a même pas parlé du gameplay. Mais le gameplay, il est dingo, quoi.
Bah oui.
En plus.
Bah bien sûr, bah évidemment.
C'est une grosse réussite.
C'est hyper simu, en fait. C'est,
Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous étiez en train de chamailler.
Ouais, vous étiez en train de parler tous les deux dans votre coin.
Du joint de Spike Lee.
Le joint de Spike Lee, on comprenait pas.
Le joint de Spike Lee. Mais oui, oui, tout a été amélioré, évidemment. Refait, non, parce que le jeu était déjà parfait en 2015. J'y joue encore, d'ailleurs, en 2015. Mmh. Et notamment, oui, tout a été bien repensé pour les fans du jeu de basket et ceux qui connaissent pas, franchement, bah, allez-y parce que
c'est pas trop abrupt pour quelqu'un justement. Alors,
franchement, non, ça c'était le cas. Il y a 3 ans, c'était pire parce qu'il fallait utiliser tous les sticks, les machins, les bidules. Mmh. Maintenant, ils ont vraiment simplifié les choses. Et
par contre,
faut
être un connaisseur.
Après,
de basket.
Faut connaître.
Oui. Si tu connais pas bien le sport, tu t'amuses pas.
Non, mais tu
comprends pas tout.
Il suffit que tu fasses des tutos, etc. C'est comme les jeux de foot. Après, tu t'y fais. Mais oui, il faut rentrer dedans quand même parce que
tu te rends compte, t'as un jeu de basket qui est très poussé et en plus de ça t'as une sorte de mode histoire.
Mmh. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est complet, c'est beau, c'est exactement bien réalisé.
Et c'est quoi le mode histoire
technique
de Spike Lee alors ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Bah, apparemment, ça parle de sombre tout. Moi, je t'avoue que je suis pas rentré dedans à fond comme Olivier, mais
c'est une histoire de garde-corps.
Apparemment, il y a des trucs un peu sombres, des trucs un peu bizarres, etc. Bon, bref.
Moi, je trouve pas que ce soit le premier. Ouais.
Moi, le dernier
argument du jeu quand même.
Ils l'ont beaucoup mis en avant.
Le dernier tout cas,
c'est parce qu'il y a un nom qui ronfle.
Tu devais faire les entretiens d'embauche avant la draft, etc. Où tu répondais au general manager de l'équipe, etc. Enfin, ils vont vraiment à fond dans le truc.
Ouais.
Et pour les fans de basket, c'est génial. Et même si vous n'êtes pas fan de basket,
le public est génial.
Je vous conseille
une
fois d'allumer un NBA 2K si vous avez l'occasion, juste pour voir. Et après, quand vous allez retourner sur votre jeu de foot ou sur votre jeu de sport de prédilection, vous allez vous dire merde, on se fait avoir quoi, parce qu'ils sont tellement loin dans le truc.
Peut-être qu'il y a peut-être moins de persos affichés aussi sur un terrain de basket.
Ouais, bah, tu sais, quand tu vois le public qui réagit en même temps et tout, il y a comme du public.
Oui, bien sûr.
Quand tu es mené dans
un terrain de foot, c'est quand même.
Et dans un match de basket.
Enfin, les stades de basket et NBA, il y en a quand même du peuple.
Ouais, et dans un match de basket, c'est de l'action qui est très rapide, avec beaucoup de mouvements différents. Je trouve que j'aurais tendance à dire que dans le basket, t'as plus de mouvements différents que dans le foot. Et donc
Des mouvements des mains
bah voilà, t'as les jambes, parce qu'au basket tu utilises les jambes, tu utilises les mains, tu utilises tes pieds, etc. Au foot, les bras finalement c'est presque accessoire, t'as quand même beaucoup moins d'animation de bras à faire dans un jeu de foot.
Non, t'animes tout le corps.
Oui.
Tu regardes comment PES est animé. Tu vas voir que les bras, ils ont une utilité. Les bras, ils sont extrêmement utilisés.
On va dire c'est à peu près équivalent.
Et dans PES et dans
le même
FIFA,
genre de truc.
Parce qu'en fait, c'est eux qui permettent de tirer les maillots, de protéger une position, etc. Non. Après, faut pas abuser.
Pas
il y a énormément d'animation dans PES et FIFA.
Non,
oui, il y en a beaucoup, mais je sais pas si.
Je pense qu'il y en a même plus que dans un jeu de basket, mais après c'est que.
C'est possible.
Bon, peu importe. De toute façon, on n'est pas là pour.
Bref. En tout cas, c'est très bien.
Techniquement, ils ont tout amélioré.
Un jeu fantastique
à recommander, même ceux
que tu recommandes contrairement à Saint Seiya. Et le jeu suivant, on retourne dans l'angoisse après Saint Seiya justement.
Oui, avec Soma,
un jeu traumatisant.
Somatre.
Un jeu traumatisant. Alors Carole qui l'a testé parlait de pur bonheur entre guillemets.
Oui, parce
évidemment.
Que elle veut flipper tout le temps.
Elle était solo ou pas ?
Quand on aime flipper, c'est un jeu Frictional Games. Donc Frictional Games, c'est ceux qui avaient créé justement déjà une première sensation avec Amnesia. Un jeu dans lequel tu n'avais pas d'armes, etc. Et surtout, il fallait pas regarder les ennemis. Il fallait te planquer un peu comme
quand t'as Traz en face de toi, faut surtout pas le regarder.
C'est ça, ouais. Non mais tu sais quand t'es petit et que tu fais des rêves terribles
faut
avec
pas
un
dire
monstre,
son nom trois fois,
tu te planques sous un bureau, sous un lit ou quoi, et tu regardes pas quoi. T'as peur. Et donc c'est un peu ça d'ailleurs. En fait, c'est un peu le concept même du jeu, c'est-à-dire que là, ta vue se brouille quand tu regardes l'ennemi ou quand l'ennemi voit que tu le regardes, etc.
D'accord.
Donc il faut les éviter. Et puis après, en termes de gameplay, c'est pas mal d'exploration, de résolution d'énigmes. Avec
et ça se passe dans
un objet unique qui s'appelle l'Omnitool, le bien nommé Omnitool, qui permet de d'ouvrir
omniscient.
Des portes, de résoudre des énigmes. etc. C'est un couteau
suisse.
Et oui, effectivement, t'as raison, tout se déroule dans une espèce de base sous-marine. Alors, t'arrives au début, tu comprends que t'es une espèce de cobaye, on va tester des choses sur toi, voilà. Et au bout d'un moment, tu te réveilles quelques heures, jours, semaines, tu sais pas, plus tard, dans cet endroit complètement vide, tout du moins, c'est ce qu'on croit au départ.
Oh, tu sais.
Sombre et flippant. Il y a une extraordinaire ambiance sonore dans le jeu. Et
comme
ça participe beaucoup à créer la sensation d'oppression et de stress permanent.
C'est
donc
pas
voilà.
Comme dans le jeu qui se passait dans l'espace, là, qui me rappelle un peu ça.
Un jeu qui se passait dans l'espace.
Oui, oui,
Dead
tu sais.
Dead
non,
Space
non, non. Bah, je sais plus, c'est pas grave, on s'en fout.
D'accord.
Okay.
Merci pour cette.
Merci, Dead Space, peut-être, si t'as raison.
Dans tous les cas, voilà. Bon, évidemment, Dead si Space. Vous avez aimé Amnesia, c'est une recommandation. Mais même d'une manière générale, si vous aimez vous faire peur, c'est disponible sur PS4 et sur Steam. Et je précise d'ailleurs sur Steam qu'on peut y jouer et sur PC et sur Mac.
Très bien.
D'ailleurs, bon, je crois qu'il est pas très cher. Hein, je sais plus. Il me semble qu'il était pas ultra cher. Genre 29,
il est à 28
euros. Ou 29, ouais, c'est
28
ça.
Euros et quelques.
Et c'est une expérience assez courte, encore une fois, non?
Bon, non, c'est quand même environ une dizaine d'heures.
Ah oui, ah,
quand même.
Donc c'est pas court,
va.
Non? C'est le
10 heures à se faire dessus.
10 heures à se chier dessus, c'est pas mal. Hein, ouais.
Romain,
ça en fait des trucs dans le caleçon.
Moi, j'en suis à 3 semaines, donc à
part. Oh, tu sais! Romain.
Et voilà.
Vous savez tout, et bien sûr, c'est moi qui suis à côté de lui.
Exactement. T'es en face, même. Meilleure place. Bien,
face, ouais.
Maintenant que nous avons
fait le tour
des jeux, cette semaine, un peu de hors-jeu, encore une fois, comme l'année dernière, nous allons vous faire part de nos petits coups de cœur qui concernent, je sais pas, le manga, la littérature, le ciné, les expositions, les séries. Bref, on va vous parler de tout ça maintenant. Et je vais me tourner d'abord vers Romain,
oui.
Parce qu'il y a une série...
Oui.
Que tu regardes en ce moment, qui en est à sa saison 2 si je ne m'abuse.
Et ben en fait je l'ai même terminé.
Tu,
hein.
Tu l'as terminé,
j'étais passé à côté de la première saison et j'ai bouffé ça d'une traite.
Bah
ça
voyons.
S'appelle BoJack Horseman, c'est une exclusivité Netflix parce que c'est produit par Netflix. Mm-hmm. Et c'est une histoire assez originale parce que moi déjà de base, tu sais les pubs Orangina avec les humains,
ouais, mais c'est normal,
les animaux anthropomorphes. J'aime pas.
C'est un malaise.
Même des humains à tête d'animaux, j'aime pas ça.
Ah bon?
Alors donc là tu vois d'aspect BoJack Horseman ça m'attirait pas trop. Mais j'ai essayé et c'est franchement
alors de
super
quoi ça
bien.
Parle
alors en fait c'est l'histoire de BoJack Horseman donc qui était un acteur de sitcom à succès dans les années 90. Il jouait dans une sitcom où il s'occupait de trois orphelins, tu sais, genre les typique année 80-90,
ouais, comme Bill Cosby, ouais.
Et sauf qu'après la fin de la série, bah il a jamais réussi à retrouver le succès, sauf qu'il continue de vivre une vie de débauche. C'est devenu un peu un raté le mec.
D'accord.
Et ça raconte sa vie hollywoodienne avec tout un casting de personnages bizarres. T'as le mec qui squatte chez lui depuis des années qui est arrivé pendant une fête un jour et qui est jamais reparti.
Mmh.
T'as pas mal de références à de vrais acteurs. J'ai vu par exemple dans un des extraits que Poufy diffuse, là il y avait Andrew Garfield et il se fout de sa gueule, etc.
Mmh.
Et la chatte rose là par exemple, c'est son agent. Et en fait il faut préciser que dans le monde de BoJack Horseman, le fait qu'il y ait des humains animaux, c'est jamais évoqué en fait. Pour eux c'est normal, c'est comme ça que le monde est fait, et donc c'est un non-sujet. Sauf qu'il y a beaucoup de gags visuels et sonores liés au fait qu'il y ait des appartenances à certaines espèces plutôt qu'à d'autres. Donc ça déjà, si tu regardes un peu avec attention, c'est très drôle, c'est bien écrit, c'est très caustique, c'est vraiment un dessin animé pour adultes. Hein.
Ils ont fait un doublage français ou est-ce que c'est...
Il y a un doublage français, moi je le regarde qu'en VO, c'est Will Arnett qui fait la voix de BoJack.
J'ai vu qu'il y avait Aaron Paul et Alison Brie aussi.
Aaron Paul, c'est le mec qui squatte sur son canapé, qui est très très drôle aussi. Son nom m'échappe là sur l'instant. Mm. Mais moi, mon personnage préféré dans BoJack Horseman, c'est Mr. Peanut Butter. En fait, c'est un homme labrador.
Mm-hmm.
Et on l'a vu dans le truc. Et il a en fait, il a les caractéristiques du chien.
Ouais.
Il est toujours super enjoué. Il aime tout le monde. En fait, il part du principe que les gens ont un bon fond.
Mmh.
Et il s'enthousiasme pour un oui ou pour un non. Et en fait, c'est le gros concurrent de BoJack dans les années 90. Il avait sa propre série à part sur la même thématique. Et donc, BoJack l'envoie bouler en permanence. Mais l'autre, il continue de lui parler comme si c'était son meilleur pote. Et c'est super drôle. Alors, au début, j'étais un peu... je doutais un peu parce que les premiers épisodes ont un peu de mal à démarrer.
Mmh.
Mais genre à partir du 5-6ème épisode de la saison 1, ça s'améliore et c'est crescendo ensuite jusqu'à la fin de la saison 2, et c'est vraiment très très bien. Si le le côté Star System, Hollywood vous intéresse un petit peu et que vous aimez les dessins animés à la South Park, les trucs un peu adultes, un peu vulgaires, et bah BoJack Horseman va vous plaire. Moi j'aime beaucoup.
Voilà. Ok, donc c'est sur
Bonne
Netflix.
Surprise, sur Netflix.
Très bien, on va rester dans le domaine des séries cette semaine hein, avec le hors-jeu, parce que Julo, toi aussi
oui.
tu vas nous parler d'une série.
Oui.
Et ensuite Traz aussi, et moi pareil. Alors,
exactement.
Quelle est ta série de la semaine?
Aaron Paul joue Todd, le nom m'est revenu.
Ah non, c'est pas ma série de la semaine, Paul, c'est Todd.
Ouais. Ouais, on parle plus de la même chose. Bon.
Oui, alors. Alison Brie aussi.
Il fait exprès.
Oui, je l'ai dit.
je n'ose plus parler, j'ai peur qu'on
m'en vas-y, j'ai fini.
T'es sûr hein?
Oui, je pose le micro.
Cette semaine, j'ai pu découvrir, comme beaucoup de, d'autres Français, parce qu'il s'agit
abonné à Canal+.
Les bourgeois, donc.
Une série, parce que c'est assez rare pour être noté, les séries françaises, c'est pas souvent la panacée. En l'occurrence, il y en a eu une très très bonne il y a 3 ans,
il y a 50 ans.
avec donc la première saison des Revenants. Une série donc tournée en France avec des acteurs français
avec
et
Sarkozy.
Avec un scénar assez spécial qui est basé sur
Il y a
film.
Louis Labrocante aussi hein, tu sais, en France.
Oui
hein.
c'est vrai. Bon.
Là
on est quand même juste un petit cran tout petit au-dessus de Louis Labrocante.
Inspecteur Boulin.
Et donc on est dans ces régions montagneuses de la France dans lesquelles se déroule une histoire un peu particulière où des morts reviennent à la vie sans aucune explication.
Tu sais que c'est impossible, c'est un tocon.
Eh bien, écoute, dans Les Revenants, c'est possible et ça arrive. Et il y a toute une intrigue comme ça qui se tisse petit à petit et qui est assez intéressante et notamment
parce que en fait, la première saison se terminait quand même d'une façon où
assez énigmatique.
On,
ouais.
on ne savait pas du tout ce qui s'était passé, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'explication hein, sur le
retour. J'ai jamais été au bout de la première saison, moi.
Il n'y a toujours pas d'explication sur le retour des revenants.
Des reviendus.
Parmi les vivants. Et je ne pense pas qu'il y ait, dans cette saison 2, des grandes explications.
Bah,
simplement,
fait,
la suite de l'histoire, ça s'est terminé un petit peu avec un cliffhanger où les humains bien vivants se séparaient du groupe des revenants. Et c'est plus là-dessus qu'on va nous donner des explications. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se posait tous la question parce qu'il y a pas mal de personnages de cette série qui étaient des enfants, et donc 3 ans après,
parce
on s'est dit
grandi, ouais,
comment vont-ils faire pour dire c'est la suite immédiate alors que les enfants auront grandi, etc. Et en l'occurrence, cette héroïne Camille qui avait donc je sais plus, peut-être 11-12 ans à l'époque de la première saison. Et qui finalement en fait n'a pas changé des masses. C'est plus sa grande sœur bizarrement, Léna, qui a changé physiquement, mais elle reste assez proche de ce qu'on avait en tout cas en souvenir de son visage.
Et c'est une revenante aussi, sa grande sœur.
Non, que la petite sœur. En fait, d'ailleurs, l'histoire commence avec cette petite sœur. Donc cette famille, hein, c'était 2 sœurs jumelles, et l'une d'entre elles est décédée dans voyage scolaire avec un bus qui est passé par-dessus bord dans une montagne, qui est tombée dans le ravin.
Qui a dérapé.
La jeune fille est morte. C'était genre 3 ans auparavant. Et donc lorsqu'elle revient, c'est le premier personnage qu'on voit revenir. Évidemment, elle revient sans comprendre ce qui s'est passé entre le moment où elle était dans ce bus et elle s'est pas vue mourir.
Pour ils sont pas morts. Voilà,
et elle revient, évidemment, ses parents et sa sœur jumelle, qui du coup a 3 ans de plus qu'elle et plus grande, ne comprennent rien. Et d'autres gens dans cette région vont revenir. Et puis il y a une ambiance un peu, pas lynchienne, mais vraiment étrange, avec beaucoup de choses inexpliquées, une bande originale qui est excellente. C'est une ambiance très spéciale, très loin de ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries américaines et évidemment
et
dans
les
autres séries françaises. Les Américains se sont empressés de faire un remake qui est pourri.
Tu l'as vu?
Oui, j'ai commencé à regarder. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas réussi à recréer justement ce qui fait la force des Revenants, c'est-à-dire cette ambiance très vraiment particulière.
C'est
et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai des amis dans le petit village où je vais chaque année en Italie, donc des Italiens qui vivent là-bas qui regardent des séries comme tout le monde sur Netflix et autres.
Ils ont le net.
Et qui m'ont dit oh là là, on a découvert cette série incroyable qui vient de chez vous, Les Revenants. Donc ça a même dépassé les frontières de la France. C'est une série qu'il faut absolument voir. D'ailleurs, si vous avez Canal+, vous avez donc Canal+ à la demande et je crois qu'on peut regarder la série
la première saison tout entière. Ouais, voilà, j'ai vu ça.
Tout entière avant de se lancer dans la deuxième qui vient tout juste de commencer. Il y a 2 épisodes qui ont été diffusés. À partir de maintenant, je sais pas si ça va être 2 par semaine ou 1 par semaine, mais dans tous les cas,
c'était le cas en tout cas pour la première.
Je
saison.
Serai tous les lundis devant ma télé pour le regarder dans sa diffusion première parce que C'est vraiment une série que j'adore et que je vous recommande chaudement, parce qu'on est assez loin évidemment des séries de zombies à l'américaine, etc.
Ah bah, à l'américaine,
c'est vraiment, il a fait pour moi.
Il y a une French touch, hein. Voilà, c'est les zombies French touch. Voilà.
Très bien, bah tu, je te disais, tu fais la transition pour moi.
Mais oui, je
on va justement parler de zombies avec Traz.
Ouais, ouais,
parce
c'est vrai.
On va parler d'un spin-off qui vient de débuter aux États-Unis, c'est Fear the Walking Dead. C'est-à-dire ayez peur du mort qui marche
ou du marche qui mord, je sais pas.
Et donc c'est des pas la marchands. Suite, c'est vraiment un spin-off, c'est une histoire parallèle à
parallèle mais qui est quand même liée évidemment,
qui est évidemment
à The Walking
liée
Dead.
À The Walking Dead. Et ça se passe à Los Angeles et ça se passe au début de l'épidémie zombie.
Exactement. Tout
et
à fait.
Toi, tu as pu regarder les premiers épisodes, oui. Traz, et tu as trouvé ça sympa.
Oui, il y a eu 5 épisodes pour l'instant.
Gentil,
gentil, c'est très gentil. Il y a eu 5 épisodes pour l'instant, j'en ai vu 4. Donc c'est diffusé en simultané sur Canal Plus Série
en oui, simultané c'est avec le dimanche.
On n'est pas payé par Canal Plus.
Dans les bons jours donc.
C'est mardi. Mais non, mais il faut quand même.
Ça, c'est mardi. Voilà. Faut le mardi dans la nuit du mardi. Donc.
Dans la nuit du mardi. Ouais.
Oh là
faut
là.
Quand même préciser que c'est sur Canal, hein, malheureusement. Ouais. Il n'est pas sur Netflix ni ailleurs. Enfin, si, il est ailleurs, mais bon, ça c'est votre problème. Bref. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, comme tu disais, eh ben ça raconte un peu le début de l'épidémie. Comment ça a commencé, comment ont réagi les gens au début, qu'est-ce qu'ils vont faire,
qu'est-ce qu'ils vont faire pour pallier à tout ça, le début de l'épidémie justement. On en voit un petit peu des zombies quand même ou pas?
On commence à en voir un petit peu, mais ils ont pas du tout la même tête que ceux qu'on voit dans The Walking Dead. Ça n'a rien à voir.
Bah, ouais.
Parce
frais,
que ceux, dans, ouais, c'est ça, ceux dans The Walking Dead, ils sont complètement putréfiés.
Ouais.
Alors que là, ils sont encore frais, comme dit Plume, mais effectivement, ils sont moins marqués.
C'est vachement intéressant comme idée, je trouve.
Mais c'est très sympa. En revanche, effectivement,
c'est pas du tout
les mêmes acteurs.
Quoi, parce qu'on n'en a aucune idée, que ce soit dans le comics
ou
dans la série.
Exactement.
Mais justement, est-ce que le créateur du comics est impliqué là-dedans?
Alors c'est Kirkman, voilà, exactement. Oui, il est tout à fait impliqué. Je crois même que c'est lui qui réalise les trucs. Le producteur, je crois même que c'est lui qui réalise.
Il est toujours producteur.
Ah, donc, non mais c'est un gage quand même de.
Oui, tout à fait.
Oui, parce
bah,
que
je pense qu'il suit le truc.
Son univers,
bah, voilà, il connaît son truc.
Non, mais c'est vraiment oppressant et tout. Puis là, on arrive effectivement, c'est à Los Angeles et ça commence à partir un peu en vrille dans tous les sens. Les gens
bon,
se posent
les personnages
des questions,
qu'on a
etc.,
pu
quoi.
Découvrir jusqu'ici sont convaincants ou pas?
Oui, tout à fait. Ouais. Honnêtement, ouais, ça peut être sympa. Par contre, j'ai vraiment l'impression que là, ils ont fait un petit côté personnage latino qu'il n'y avait pas dans The Walking Dead série normale, si je dis pas de bêtises. Enfin, pas trop.
Personnage
peut-être
latino.
Peut-être avec une, peut-être.
Ouais.
Là, j'ai l'impression qu'ils ont plus axé sur le latino. Alors, je sais pas si c'est rapport avec
quoi,
le
parce
marché.
Parce qu'il y a beaucoup de personnages latinos.
Bah là, il y en a vachement par rapport à.
À Los Angeles, c'est possible.
Oui,
en
là,
même
c'est
temps.
Pour ça. Je pense j'ai l'impression qu'ils ont voulu axer là-dessus juste parce que ça se passait à Los Angeles.
C'était peut-être suite au propos de Donald Trump sur les migrants.
Bah écoute, je ne sais
latinos
pas.
Latinos qu'il a envie de renvoyer chez eux.
Voilà.
Enfin bref. Donc tout ça pour dire Fear the Walking Dead.
Voilà, c'est très sympa. J'espère que ça va encore démarrer un peu plus.
Ouais, parce que ça commence très fort, tu m'avais dit.
Oui, ça commence fort, mais c'est vraiment progressif et c'est ça qui est bien. C'est qu'on n'est pas abrupt, genre on passe d'un truc à l'autre correctement sans comprendre. Là ça y va piano mais sano.
C'est marrant. D'accord. Moi j'adore les trucs de zombies, mais je me dis que si un événement similaire se produisait dans le monde réel, genre une épidémie zombie,
ça peut arriver,
mais ça serait elle serait tuée mais tellement vite. Genre avec nos armées, nos forces de police, etc. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse se laisser dépasser par des zombies.
Bah moi non plus.
Ah bah t'inquiète pas que l'armée fait le ménage. Hein.
Surtout qu'on est préparé.
Ouais mais t'as bien vu dans Walking Dead après où ils en sont, il y a plus personne.
Oui. À force de regarder des séries, de lire des bouquins, etc. Sur les invasions de zombies, en plus on est super préparé quoi.
Non, mais
on saurait comment.
Un zombie c'est tout mou de toute façon.
Tu fais ce
que
tu veux.
Oui mais là
les zombies de 28 jours plus tard.
Le problème c'est ça.
Le problème c'est que
c'est des zombies.
L'épidémie se propage tellement vite que c'est.
Mais moi
c'est la loi martiale après.
J'arrive pas à imaginer qu'on
temps,
puisse la laisser se développer.
Oui, parce que ça va très vite.
Imagine combien il y a de personnes dans une ville.
Oui c'est ça.
Ne serait-ce que comme Paris.
Les mecs vont se cacher. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont contaminer d'autres gens sans le savoir.
Le principe de la contamination comme ça, ça va extrêmement vite.
Alors que là c'est une vraie contamination. C'est genre.
D'un côté en plus dans Walking Dead on sait que même si tu meurs de mort naturelle, tu te réveilles en zombie quand
c'est
même après.
C'est qui parle quand on dit Walking Dead et pas Walking Dead. C'est Julo qui nous a dit ça.
Walking Dead.
Ouais. C'est ça, hein, Julo.
Walking Dead.
Ah, ok.
Walking Dead. Bon bref, en tout cas, c'est
et pas Walking
série,
Dead.
Très sympa.
Très bien. Bah, on va rester dans les séries.
Voilà.
On va aller surtout vers une série culte.
Les Schtroumpfs.
Affirmée. Exactement.
Les Schtroumpfs. Donc.
Les Schtroumpfs avec.
Hashtag Gargamel.
Exactement.
Avec Dorothée, chanson.
Et, ouais.
C'était pas Dorothée les Schtroumpfs.
Si.
Si, c'est
sûr. Toi qui es fan de Dorothée, tu sais pas? Bah, non,
si, là, je trompe là, c'est Dorothée.
Ah ouais, si.
Ouais, bien sûr.
Ah
bien sûr.
Bah voilà.
J'apprends alors, un truc. De mon côté, je vais vous conseiller une série qui, elle, a de l'âge déjà et qui est arrivée en Blu-ray cet été. C'est The Wire, qu'on a baptisé en France Surécoute.
The Viable.
Le câble.
Le câble.
Le câble, non, c'est Surécoute. Une série policière, comme on n'en a pas vu beaucoup.
Au Québec, c'est peut-être le câble, pardon.
C'est possible.
qui décrit sur 5 saisons en fait.
5 saisons, la vache.
Ouais, le quotidien d'une unité spécialisée dans le démantèlement, on va dire, de gangs liés à la drogue dans la ville de Baltimore. Ah. C'est David Simon donc qui était à l'origine de cette série.
Et il a fait quoi lui?
Ben là, il en a sorti une autre. Il y a pas longtemps qui s'appelle Show Me a Hero. Qui a été diffusé sur HBO, et il y avait eu Trem aussi qui se passait à la Nouvelle-Orléans après les
inondations,
après Katrina, exactement. Ouais. Et donc The Wire, c'est juste une des meilleures séries policières de tous les temps. Chaque saison vous emmènera vous fera découvrir les coulisses un petit peu d'abord de la police évidemment, ensuite des gangs, ensuite des docks de Baltimore, ensuite de la mairie, du journalisme.
Et les saisons sont pas connectées entre elles en termes de scénario?
Si, tout est connecté, mais disons qu'il y a un angle particulier qui est apporté en plus à la même histoire, ouais. Et surtout des personnages absolument incroyables dedans, dont Omar Little
Simpson.
Si vous suivez un peu la politique, vous savez que c'est le personnage le plus fascinant de la télévision selon Barack Obama.
Ah ouais,
quand même, le président des États-Unis qui l'avait signalé. Et c'est donc la première fois qu'elle arrive en bonne qualité.
Tu veux dire en version légale?
Platines. Non, mais même tout
court. Il me semble qu'il y a eu un gros travail de remasterisation.
Exactement,
plus dessus,
parce que
tu vois, ça vaut le coup.
Les DVD étaient toujours en 4 tiers et la qualité d'image était franchement dégueulasse. Bon, et là, avec la version Blu-ray qui est un peu chère, hein, qui coûte à peu près 100€, bah là vous avez.
Il y a les 5 saisons?
Il y a les 5 saisons, absolument.
Ah oui.
Et bah là vous avez quelque chose d'assez ouf. Et pour vous, mesdames, il y a Idris Elba qui joue dedans.
Oh non.
Très important.
T'es amoureux ou pas?
Oui, totalement d'Idris Elba.
Ok,
il est amoureux de tout le monde.
Oui, exactement.
C'est vrai qu'il est amoureux.
Bon, c'est surtout des filles. Mais...
Et donc ce sera tout pour cette semaine de hors-jeu. Beaucoup de séries, on reviendra la semaine prochaine je pense avec peut-être d'autres choses à vous faire découvrir. Il y avait aussi au passage l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, qui est une exposition jeu vidéo forcément. On vous a fait un petit reportage dessus cette semaine. Et ben, on vous conseille aussi d'y aller, c'est très intéressant. Il y a plus de 800 œuvres
art ludique
au musée art ludique Quai d'Austerlitz à Paris. Ça dure jusqu'au 6 mars 2016 et vous allez découvrir les coulisses artistiques de pas mal de jeux, que ce soit Far Cry, Assassin's Creed, Rayman. Et également Wild de Michel Ancel d'ailleurs, qui n'est pas encore sorti et dont on va peut-être entendre parler dans pas très longtemps. Dishonored également. Bref, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment 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 le coup de se plonger un petit peu dans tout ce travail préparatoire des jeux, avec aussi des sculptures hein, d'ailleurs au passage.
Et Yoda.
Et c'est vraiment assez fascinant, c'est une très belle expo, gigantesque, avec je pense la plus grosse attraction, c'est un écran géant qui vous plonge littéralement dans Assassin's Creed Unity, oui. Qui vous emmène carrément dans Paris. Et l'écran géant, il donne une sensation de vertige d'ailleurs, autant qu'un casque de réalité
parce
virtuelle.
Parce qu'il est incurvé et que du coup que tu regardes à droite à gauche, t'es toujours sur l'écran.
T'as l'impression que vraiment tout avance. Et donc je vous le conseille vivement. Voilà, jusqu'au 6 mars, l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française. Et ce sera tout pour cette semaine de hors-jeu.
Exact.
Merci les gars.
Merci.
Et bien ça va aussi être tout pour ce podcast. Donc figurez-vous.
Qui prend fin.
Et oui,
parce que tout a une fin au bout de 5 heures.
Exactement, au bout de 5 heures de podcast. Un peu comme pour le podcast PlayStation.
Exact.
Auquel tu as beaucoup contribué, Traz.
Bon, tu sais moi.
Ouais, je sais. En tant que... Bref.
De la vie actuelle intense.
Exactement. Bon, merci Traz.
Merci.
Merci Romain, merci Julo.
Merci à toi.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci à vous.
Ou regardez si vous êtes premium. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres aventures, pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout,
jouez bien.
Ciao.
Ciao.
Salut.